Jean-Phi Janssen, vous êtes très impressionné de faire une émission avec Thierry Ardisson, je sais.
Oui, quand même. Ça reste un pilier de la télévision française.
Ben oui.
Et je l'ai déjà eu à bord.
C'est pas vrai.
Si, j'ai bien dit.
Vous l'avez eu dans un avion déjà?
Ouais, mais il a été égal à lui-même.
C'est-à-dire?
Tu disais poulet, il fait ouais. Poisson, ouais. Après, tu dis, vous voulez du café, ouais. Du thé, ouais. Alors, tu dis, café ou thé? Il fait, ouais. Alors, tu lui mets une tasse avec du café, du thé, tu dis, il a du ouais.
Ah, vous souveniez pas que vous aviez eu Jean-Phi Janssen comme steward à bord?
Ouais, mais...
Depuis, c'est devenu une vedette, vous savez.
Mais oui, on se connaît pas. On devait faire une émission ensemble il y a quelques temps. Là, je me faisais une joie de le rencontrer, c'est fait.
Ah, vous vouliez inviter Jean-Phi Janssen dans Salut les Terriens?
Non, dans une émission que je vais faire à l'avenir.
Qui s'appelle la nouvelle.
Je suis en train d'essayer.
Mais comment tu fais Salut les Terriens?
Faut dire non.
Je suis en train d'essayer de rendre jaloux Pierre Bénichou.
Non, c'était l'émission avec Pierre Bénichou.
Oui, c'était celle-là, je devais commenter son livre.
Non, d'autant que j'étais invité 3-4 fois chez lui et que j'ai chaque fois porté l'émission sur mon dos, tu comprends? On n'en parle plus.
Mais l'émission s'arrête pas cette semaine.
Ah, moi si.
Et monsieur Diffenthal, va falloir apprendre. Vous avez démarré les grosses têtes hier. Chantal là-dessous vous a tout expliqué.
Oui, oui. D'ailleurs, apprendre. Chantal m'a tellement bien expliqué. J'ai mis le t-shirt de mon beau-père.
Ah oui, Serge Gainsbourg.
Voilà.
Oui, parce qu'il vous a confondu avec Yvan Attal hier pendant toute l'émission. Ça, quand même.
C'est pas un hommage.
Mais vous connaissiez pas Jean-Phi Janssen?
Mais pas du tout, non.
Peut-être vous avez eu aussi comme steward à bord.
Non, j'ai eu Yvan Attal.
C'est vraiment un monde sans pitié, quoi. Vraiment, quoi.
On n'a jamais eu Frédéric Diffenthal
à bord. Non, j'ai pas eu cette chance, non.
Ça alors?
Oui, parce que c'est quelqu'un que j'aime bien.
Ah oui, c'est vrai. Oui. Pierre, quand même, pour y accueillir Frédéric Diffenthal.
Mais j'ai accueilli Frédéric Riefenstahl.
Avec... Comment vous dites?
Comment il dit?
Diffenstahl. Ah, oui.
Riefenstahl, non. C'était le... Mais non, je connais, j'admire.
Pierre, il passe de l'autre côté du Rhin.
Mais je l'appelle Riefenstahl parce que j'étais, pendant la guerre, j'ai connu un Riefenstahl, c'était l'amant de ma mère. Il habitait à la Commandantour. Et il était très
gentil. Mais c'est mon grand-père. Je l'ai rencontré enfin.
Et il est venu en FFI et il a tendu maman.
Quelle belle histoire.
Et ça veut dire quoi, Diffenthal?
Oh, on ne demande pas.
L'étymologie de ton nom, t'as vu, c'est bien ça. L'étymologie de ton nom.
Ah, si tu savais, Vallée Profonde, je crois.
Ah, j'aurais bien aimé m'appeler Diffenthal, moi.
Oh, ça c'est dit.
Hey, il m'a fait ma dédicace, donc il a marqué...
À toi, gros con.
T'as intérêt à m'inviter.
Pour Thierry Ardisson, quand même. C'est joli.
Pierre, c'est pas très grave. Vous avez fait quasi toutes les émissions. Regardez Thierry Ardisson, il n'a jamais été invité chez Michel Drucker.
Non.
Il y a toujours une émission qui résiste.
Voilà, toujours. D'ailleurs, il n'est pas là, Michel Drucker.
Non, c'est normal, Pierre.
Quel connard. Mais...
Tu parles de moi?
Non, de Michel Drucker.
Oh là, chacun son avis.
Un jour, tu sais, Pierre, moi j'aurai une émission, ça s'appellera Pouette Pouette, et ben tu seras mon premier invité.
Ouais.
Pour parler de ton livre.
Pardon,
ton livre que je n'ai toujours pas eu, que je réclame à Corée.
Tiens, le voilà.
Ah bah, il était dans
une poche. Mais lui, je l'avais dédicacé à quelqu'un d'autre. Je vais l'enlever.
Regardez, il déchire la page.
Il déchire son livre.
Et puis je vais
l'enlever.
Enlevez pas trop de pages, il va plus en rester.
Vous allez nous l'agacer, Laurent.
C'est pas la méchanceté qui manque ici. Hein. Alors rappelez-moi votre nom déjà.
Marlène.
Je crois qu'il est temps de démarrer par une première citation, maintenant que tout le monde a fait connaissance. Une citation pour Christophe Luis, qui habite Morez, dans le Jura, qui a dit « Il est très difficile de trouver une femme qui vous aimera de façon durable pour votre argent. »
Ah, c'est bien. Ça.
C'est vieux, ça, non?
Ah, c'est pas si vieux que ça.
Sacha Guitry!
Non.
C'est mort.
Ah, c'est quelqu'un qui, hélas, n'est plus là. Autrement, il serait encore avec nous aux grosses têtes, évidemment.
Sim,
non.
Jean-Yann.
Et c'est Jean-Yann, évidemment. Bonne réponse de Caroline Diamant et François-Olivier Gisbert. On va monter un peu le niveau avec cette citation pour Annick Bréard, quelqu'un que les jeunes ne connaissent peut-être plus, mais puisqu'on a ici quand même des piliers du PAF, ils sauront forcément retrouver l'auteur de cette citation, qui a dit « Les ennemis, ça n'existe pas, ce sont des gens avec qui on n'a pas encore déjeuné ».
Léon Zitrone.
C'est assez joli quand même.
Oui, c'est pas faux.
C'est du Léon Zitrone.
Ce n'est pas du Léon Zitrone.
Mais ce genre-là
Guilux.
Guilux, non, mais ça aurait pu. Pas si
Roger Lanzac.
Roger Lanzac, non.
Georges de Cône.
Georges de Cône, non, mais c'est quelqu'un effectivement qui a été animateur à la télévision.
Jacques Martin,
non.
Charles de Gaulle.
Oh, Charles de Gaulle n'a pas été animateur à la télévision.
Ah bon?
Non.
On le voyait tout le temps.
Albert Reissner.
Albert Reissner, non.
C'est pas Jean Nohain.
Il avait... Et c'est Jean Nohain. Bonne réponse de François-Olivier Gisbert.
Ah ben oui, mais il a dit c'est pas Jean Nohain.
Le port de l'angoisse, c'est le titre français du film. Comment s'appelait le film aux États-Unis? Film qui est aussi le titre, évidemment, d'un roman d'Ernest Hemingway.
To have or have not.
C'est-à-dire?
En avoir ou pas.
En avoir ou pas. Bonne réponse de Pierre Bénichoux. Vous le saviez aussi, Marcella?
Non, franchement, je connaissais pas les titres en anglais.
Pourtant, c'était facile.
vous connaissez En avoir ou pas? Vous l'avez lu, Hemingway?
Non, j'avais vu la version camerounaise, donc j'avais que le titre en Douala, mais j'avais pas le...
C'est Johnny Hallyday qui l'a traduit en français, parce que c'est très loin du titre original.
Oui, le port de l'angoisse, finalement, c'est une traduction, on va dire, libre.
Oui, oui, très libre.
Parce qu'en avoir ou pas, ça veut vraiment dire avoir des...
Bah oui, mais bien sûr, en avoir ou pas, oui.
Mais c'est vrai que c'est plus élégant, le port de l'angoisse, que en avoir ou pas.
Oui, mais ça veut rien dire.
Ah bah voilà.
Oui, mais ça n'a aucun rapport.
Comment ça?
Mais ça n'a aucun rapport, tu dis c'est plus élégant, en effet.
Bah c'est plus poétique.
C'est plus élégant que mon cul... de dire les fleurs. Bon, ça oui, non, mais... oui, c'est plus élégant.
Avoir ou pas le courage, ça veut dire aussi qu'on s'angoisse.
Et c'est exactement ça, le port de l'angoisse, ouais. C'est en avoir ou pas. Comprenez, Pierre?
Non, c'est PORC, ça, là, je
c'est
crois.
C'est une manière de partir. D'équité.
Le PORC.
J'aurais compris. Ouais,
ils auraient compris.
Ah, d'accord. Ah, il a été élevé à angoisse, alors, le port.
Et à l'angoisse du port, c'est avec le grand méchant loup. Puisque vous aimez les traductions, j'ai une autre question qui vaudra peut-être 300 euros à M. Sébastien Trautmann, qui habite Cassis, dans les Bouches-du-Rhône. Sous quel autre nom connaissez-vous mieux l'œuvre « Ainsi font-elles toutes » ou « L'école des amants » ?«
Ainsi font toutes ».
Excellente réponse de Marcella Yacoub. L'œuvre de Mozart, Così fan tutte, dont je me suis toujours demandé ce que ça voulait dire, parce que je ne sais pas traduire l'italien. Et en fait, Così fan tutte, ça veut dire « Ainsi font-elles toutes » ou « L'école des amants ». C'est l'opéra signé effectivement Mozart et Lorenzo da Ponte pour le livrer en italien. Et c'est vrai qu'on connaît cette œuvre de Mozart toujours sous le nom de « Così fan tutte ». Ça veut dire « Les femmes sont toutes les mêmes », en gros. Vous voyez,
les mêmes salopes.
Exactement, puisque l'histoire...
Alors, c'est bien, alors entre l'expression d'avant qui parle de couilles pour dire qu'on a du courage, là les femmes sont toutes des putes, c'est quoi la prochaine citation?
La donne est mobile, la donne est mobile, la 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 la. Femme et volage, femme et volage. C'est quoi en français?
C'est la version méchouille, c'est Roberto Alagno.
Oui, c'est comme la plume au vent, bah oui. Comme la plume au vent, femme et volage.
Così fan tutte, c'est l'histoire de deux hommes qui s'échangent leur maîtresse. Hein. C'est quand même ça au départ.
C'est quand même
assez incroyable d'ailleurs.
Non, oui, ça arrive jamais dans la vie. Ça.
Des personnages légers qui échangent leur fiancée, le jeu de l'amour, Così fan tutte. En tout cas, c'est une bonne réponse de Marcella Yacoub.
Ah non, vraiment.
Vous pouvez nous fredonner un air de cet opéra de Mozart?
Non, mais moi, je n'ai aucun... Je n'ai pas les talents de Pierre pour chanter. Je ne me permettrai pas d'évaluer.
Ça s'appelle pas les talents, ça s'appelle de l'esbrouf, là, en l'occurrence. Hein.
Mais sérieusement, vous allez à l'opéra régulièrement pour savoir traduire ainsi?
Non, c'est comme ça. Parce que moi, j'ai fait de l'italien.
Et quand est-ce que tu te mets au français?
Une question pour Kylian Espar, qui habite Paris 15e. De quoi Gertrude est-elle équipée depuis 2 mois déjà?
J'ai bien une idée. Non, mais. Elle a des coucougnettes.
C'est une puce électronique, c'est un animal qui est équipé d'une puce électronique.
Excellente réponse.
Oh non, fallait qu'on cherche.
Excellente réponse de Marcella Yacoub. C'est mieux qu'une puce électronique, c'est un implant cérébral.
Croyons, ça nous ferait du
Qu'est-ce
bien.
Qu'est-ce qu'elle avait, Gertrude?
Gertrude, c'est un cochon, mais...
Gertrude, un cochon.
Ah oui, c'est un cochon, Gertrude.
Une cochonne.
Une truie, si vous préférez.
Une cochonne.
C'est un petit bijou de technologie, évidemment. On ne sait pas encore exactement à quoi ça va servir, mais c'est un milliardaire, Elon Musk. ce que c'est lui qui a envoyé déjà des gens dans l'espace. Et là, il a présenté devant une assemblée de journalistes ce milliardaire naturalisé américain, mais né en Afrique du Sud. Il a présenté Gertrude, qui a donc dans le cerveau cet implant. Alors, on ne sait pas exactement encore à quoi ça peut servir. C'est un implant miniature.
Ça sert à quoi, alors ?
Avec une puce informatique prolongée de minuscules fils qui vont jusque dans le cortex. Ça va enregistrer vos activités cérébrales, vous voyez ?
Salade de groin.
Christine, que je vous explique. La cochonne, elle n'a rien demandé. Elle n'est pas malade.
Ah ben c'est ça. C'est,
oui. On fait un test sur elle avant qu'on vous le mette à vous, dans votre cerveau, à vous.
D'accord, mais on ne connaît pas ses pensées, elle ne peut pas les exprimer.
Non, mais on va...
Ah oui, il exprime, mais pas avec les mots, c'est un peu comme Esteban.
Avec le groin.
C'est vrai, remarquez qu'il
là,
a dit...
Là, je remuais de la queue, là.
Il est habillé tout en rose, en plus.
C'est vrai que tu tends un peu le bâton.
C'est vrai, ouais, ouais.
Vous aimez le rose,
non,
vous.
Mais plus jamais je m'habille en rose sur cette émission. Alors là, qu'on m'y reprenne pas.
En tout cas, Gertrude...
C'est vrai que j'adore le rose.
Gertrude, ça fait 2 mois qu'on lui a mis ses petits implants miniatures. Alors pour l'instant, c'est vrai que les scientifiques professionnels ne savent pas trop ce que Elon Musk veut en faire, hein, de cet implant cérébral. Mais
personne ne comprend.
Un jour, ce sera à nous. Ben, ça me permettra, par exemple, d'enregistrer vos souvenirs, monsieur.
Ah oui,
je suis pas sûr que ça soit
c'est
bon.
Black Mirror, ton truc.
Oui, non, mais c'est ça, le Big Brother.
L'intelligence artificielle, monsieur Janssen, vous êtes pour.
Ah bah oui, moi, c'est pour ça qui mes souvenirs. Et puis,
attends, ça lui en fera au moins une. Ça lui en fera au moins une.
Je peux faire une fois.
Un jour, ils espèrent les gens qui vont remarcher. Puis, il espère qu'un jour, il va comprendre ou penser.
Ah oui, un jour vous aurez un petit implant cérébral
dans la tête
qui vous permettra de vous rappeler tous vos souvenirs de Stewart
et de les revivre.
Mes aventures à l'autre bout du monde, mes rencontres formidables, les gens qui m'ont aimé. Ouais.
Bon, ça fait un peu peur à certains, évidemment, cette technologie avancée.
Donald Trump, pour Mélanie.
Est-ce qu'on pourrait évidemment être manipulé plus tard en ayant ce genre de petit truc dans le cerveau?
Mais là, la question que je me pose, c'est pourquoi il a mis à Gertrude? Pourquoi ces milliardaires ne se l'est pas mis à lui-même dans
Pour essayer d'abord, c'est une expérience. Bah,
s'il est vraiment, s'il croit vraiment dans la science, il devrait se l'implanter lui-même, non?
Mais il faut faire un essai quand même.
Hein
il faut faire un essai quand même sur le cochon. Imagine
mais qu'est-ce que...
Machin, il se dérègle, c'est les souvenirs d'un autre que toi. Bah, t'es...
Ça, c'est le tire-bouchon, par exemple. Ouais. Ça a d'abord été testé sur le porc. Et puis après, on a pu déboucher des bouteilles. Ouais. On y va progressivement. Vous voyez, les choses se font. Comment on teste d'abord sur les animaux, n'est-ce pas, Christine?
Pardon.
Je sens que vous n'êtes pas intéressée par l'implant cérébral.
Tu manges des oreilles de cochon?
Si, mais j'étais déjà partie avec Black Mirror à me dire, puisque dans Black Mirror, on peut projeter ses souvenirs à quelqu'un d'autre, mais si en plus on s'approprie les souvenirs des autres,
ça serait génial. Hein.
Ah mais ça serait extraordinaire. Là, j'ai.
Mais quelle voleuse !
Mais c'est pas une voleuse. Tu ça, est-ce qu'on les vendrait ? Est-ce qu'on pourrait être vendeuse de souvenirs ?
C'est beau, c'est
ce que beau. Dis. Hein.
T'es d'une
tu vois la poésie.
Je suis vendeuse du tout.
Oui, mais est-ce qu'on vit pour se créer des souvenirs ou est-ce qu'on vit pour vivre au moment présent ? Et là, je mettrai 3 points à ma phrase. 3 points de suspension.
C'est tout le paradoxe de Borges.
Hein. Alors quand Marcella dit que je suis pas un poète, Borges, franchement...
Tu connais Borges ?
Ben, connasse.
Ça faisait longtemps.
Non, mais...
On a presque...
Mais rigole, écoute.
J'ai tout lu. Tiens, je vais vous sortir un truc très joli de Borges.
Ah oui, oui,
on lui demande, à la fin de sa vie, un journaliste lui dit « Maître, vous qui avez tout connu, vous avez été un grand philosophe, vous avez été un grand écrivain, vous avez eu tous les honneurs. Maître, au moment de mourir, qu'est-ce que vous allez retenir de la vie ? » Et il répond, camarade, ce que je vais retenir de ma vie, c'est les rares moments où j'ai vécu ma vie avec audace.
Vous vous souvenez de ça grâce à l'implant cérébral qu'on vous a mis dans la cochonne ?
Et vous l'avez compris pour la même raison.
Une question qui concerne nos amis grecs. Quand je dis nos amis grecs, attention là, on va remonter.
C'est surtout Stevie, hein.
On va remonter à 5 siècles. 5 siècles avant Jésus-Christ.
Ah oui, on les connaît moins bien.
Oui. Et à cette époque-là, 5 siècles avant Jésus-Christ, à quoi servaient les coquilles d'huîtres?
Ah, c'est pour voter.
Expliquez.
Et le blackout vient de là. On mettait le nom.
Calme-toi.
Ostracisme. L'ostracisme vient de la coquille d'huître. Ça vient du nom coquille.
Comme ostréiculteur, voilà, l'ostracisme, ouais, c'est voter contre quelqu'un. On se servait des coquilles d'huître pour voter. Excellente réponse de Laurent Baffy. C'était des belons.
Moi, je suis ravie d'apprendre ça. Et alors, ostracisme. C'est vrai. Alors
c'est
ostraciser.
C'est l'ultra-positivité.
Ariel, oui, je vous aime beaucoup, mais je ne sais pas quand vous foutez de notre gueule ou quand vous nous dites
mais
la
non,
vérité.
Mais
je crois qu'elle-même ne le sait pas.
Non, mais ostraciser quelqu'un.
Oui.
Ça vient de l'huître. Avec Alain Belon, tu devais connaître.
Ça vient de l'huître. Effectivement, car les Grecs votaient en inscrivant le nom sur des coquilles d'huître contre
quelqu'un.
Exactement. C'était
coquille vide.
C'était voter pour le bannissement de quelqu'un, et ça se passe environ entre 400 et 500 ans avant Jésus-Christ. On appelait ça à l'époque l'ostracisme, parce qu'effectivement on utilisait les coquilles d'huîtres, d'où la même racine que pour les ostréiculteurs. Vous voyez, on apprend quand même quelque chose. L'assemblée du peuple se réunissait, et en assemblée solennelle et plénière, il y avait 6000 personnes qui se réunissaient, 6000 suffrages exprimés, et on inscrivait le nom de ceux qu'on avait envie de bannir de la cité, et c'est finalement celui, le nom qui était le plus inscrit.
Mais c'est Koh-Lanta, en fait.
Quasiment.
Il n'y avait pas de papier, c'était quand même plus simple que des coquilles, de ramasser toutes les
coquilles. On est 5 siècles avant Jésus-Christ.
On est 5 siècles avant Jésus-Christ, alors on écrivait avec
c'est déjà intelligent qu'ils aient réussi à écrire
sur les murs. De l'encre de sèche, peut-être.
Excusez-moi, mais est-ce que vous pensez au pauvre mec qui devait bouffer les 6000 huîtres pour que les gens puissent voter?
Non, il faut déjà gober l'huître. Ouais. Et une fois que l'huître est gobée, ouais, alors avec la petite carapace, à l'intérieur, on écrit. Mais on écrit avec quoi? 6 siècles avant Jésus-Christ, on ne sait pas.
En tout cas, c'était un bulot de merde.
Oui, parce qu'il fallait même de l'encre indélébile. Oh, mais oui, c'est un problème, ça.
À moins qu'on trouve une perle.
Ah.
Alors là, d'écrire.
Vous avez déjà trouvé une perle dans une...
Non, mais j'adorerais.
Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle?
Là, on a lâché plus d'une. Non,
c'est une princesse.
Non, c'est la Barbie péteuse.
Non, écoutez, franchement, non, j'ai là la reine de l'élégance. La reine de la...
De qui, vous parlez de moi?
Ah non, justement. D'Ariel Dombal. Et alors, à côté, j'ai une poissonnière. Elle a lâché une perle.
Ah oui, on parle d'huître, alors je me mets. Oui.
Non, alors, il y a un très joli opéra, Le Pêcheur de Perles, de Bizet.
On vous a déjà offert un collier de perles, Ariel?
Oui.
J'étais
qui ça, son chéri?
Non, ma marraine.
Ce pour petit air boudeur est déçu.
C'est trop mignon.
Ma marraine.
Non, pour un anniversaire, mais ça m'a fait plaisir.
Et vous, bah, et collier de perles, et vous, Isabelle, on vous a déjà offert un collier de perles?
Non, un bracelet en cuir. Ouais.
Mais c'est pas mal.
Découpé dans de la chair de veau.
Non, mais vous me voyez avec un collier de perles.
Non, mais il peut y avoir, excuse-moi, des bijoux très modernes.
Ah,
moi,
oui,
on m'a offert des bijoux de Tahiti, où ils ont beaucoup de perles grises.
Des coquilles aussi.
Et perles noires.
Ce qui vous irait bien, c'est des palourdes.
Ouais. Un beau collier d'huître.
Oh non.
Toi, tu peux te faire des colliers d'huître.
Ou autour du cou.
Oui.
Ou un bracelet.
À Claude Sarraute, on lui offre des clams. Oh.
Moi, on m'a offert une perle aussi.
Ah, c'est pas vrai? Qui vous a offert une perle?
Bah, un producteur de Tahiti. Il m'a vu, il a pris son collier autour du cou, il me l'a mis autour du mien en disant merci.
Qu'est-ce qu'il voulait de vous, ce producteur?
Non, parce que
Devine!
C'était une vente aux enchères des sapins des créateurs.
Oui.
Et j'avais, moi, parié, j'avais misé, je levais la main pour les enchères de l'arbre de Tahiti, où c'était des coraux, en fait, avec des perles qui tombaient.
Très joli.
C'était magnifique. Oui, c'était vraiment très, très beau. Et j'ai monté jusqu'à 7000 euros, après, j'ai laissé tomber.
Ah, tu venais de sortir de...
Du loft.
Ouais. Ah ouais, t'as misé bourriquet.
Vous avez déjà eu 7000 euros, vous?
Moi, j'arrivais de rien, tu vois, j'allais de mettre tout mon argent dans ce petit arbre, tu vois.
Bah justement,
c'est très joli, avec du corail et des perles.
Et le mec, pour me remercier d'avoir...
C'est au nord qu'il y a des coraux.
Non. Et le mec, pour me remercier d'avoir monté l'enchère aussi haut, il a enlevé son collier, le créateur, il me l'a mis autour du cou. Voilà.
Alors, c'est quand même rare d'avoir une perle à pas péter. Je vais vous lire un poème signé Lord Charles, publié dans les œuvres complètes aux éditions La Découverte. Je vais vous donner ce poème dans sa traduction française.
Quel siècle ?
C'est dans les années 80.
Ah bon.
Alors attention, je vous lis la version française d'un poème anglais.
Yes, sir.
À vous de retrouver évidemment la particularité de ce poème.
Ah. Yes, sir.
Repère de chêne, dollar, plongez-vous. Mona, moi, père rangé. Joli, quel éclat. Mauvais, mal derrière. Purée et délit mortier. La fourrure de singe qui encadre ce qu'un porteur pauvre agneau rame a tu.
Ça doit être mieux en anglais.
Je vous le confirme.
Est-ce que c'est un pangramme ?
Non, ce n'est pas
un pangramme.
Est-ce
que ce sont des mots qui, en anglais, commencent tous par la même lettre ?
Pas du tout.
Est-ce qu'ils étaient à plusieurs pour écrire ça ?
Il faudrait traduire le poème pour que vous compreniez sa particularité. Repère de chêne, dollar, plongez-vous.
On traduit au fur et à mesure. Repère...
J'en ai chêne, pas de chêne, les arbres d'ailleurs, ou de chêne, les chênes qui enchaînent.
Bien sûr, les arbres.
L'arbre, le chêne.
La forêt, donc.
D'ailleurs, si je vous donne que les deux premiers vers, vous pouvez trouver la particularité.
Repère de chêne.
Moi, j'ai traduit dollar, déjà.
Alors, voilà. Dollar, ça se traduit dollar.
Voilà, j'ai traduit.
Repère de chêne, de quoi ?
On a bien avancé.
Repère de chêne, dollar, plongez-vous. Mona, moi, père, rangé.
Il n'y a que des tableaux dans ce...
Pas du tout.
Bah, c'est écrit par quelqu'un qui ne savait pas parler
père
anglais.
Père comme une père ou un père comme un papa ?
Père, P-A-I-R.
C'est du français.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que mon amour, mon père rangé, ça veut dire que c'est un poème français.
Alors,
en
avec
fait.
Des mots anglais.
Si on, phonétiquement, si on traduit, ça donne un poème français.
Exact.
Pure okay. Repère la... de chêne... Dans la plongée, vous.
Moi aussi, je parle anglais comme ça.
Peut-être que c'est ça.
Vous brûlez, mais vous n'avez pas tout à fait
est-ce
trouvé.
Est-ce que c'est alors, un grand poète français?
C'est pas un grand poète, mais c'est un grand poème. Ce sont des vers qu'on connaît tous.
Donc on va,
C'est un poème français qui a été traduit en anglais. Non. Et une fois qu'on le traduit en anglais, de l'anglais au français, ça donne ça.
Non,
il n'est pas traduit en anglais.
Il y a de la phonétique.
Ce sont les mêmes mots. Phonétiquement, c'est le même poème, mais avec des mots anglais.
C'est une comptine.
Mon amour, père Ranger.
C'est une comptine, Laurent.
Ah, la claire fontaine m'en allant promener.
J'ai trouvé des dollars et je m'y suis baigné.
On aurait dit l'oreille hardy.
Vous n'avez pas encore trouvé la mécanique.
Mais c'est ça ou mais, pas?
Non, parce que vous n'avez pas trouvé la mécanique. Alors, là, je vous donne des mots en français.
Oui.
Je vous dis que si vous les traduisez en anglais, alors qu'est-ce qui va se passer?
Ça donne du
on a un poème.
Avec des mots anglais, phonétiquement, ça donne des mots français. Ça donne un poème en français.
Ah oui, mais vous ne l'avez pas répété. Pardon.
C'est pas ce que tu as dit.
C'est pas ce que vous venez de dire.
Non, j'avais compris.
Donc, c'est la bonne réponse.
Donc, on est d'accord que Mona, ça se traduit par Mona. Moi, ça se traduit par me. Père, en anglais, c'est
mon
père.
Ami.
Et rangé, c'est range. Donc,
au
c'est
de la lune.
Mon ami la rose. Mon ami la rose.
Mignonne, allons voir si la rose.
Non, non.
Mon ami. Mon ami Pierrot.
Oui.
Mon ami Pierrot.
Bonne réponse. Repère de chêne, dollar, plongez-vous, ça s'écrit Eau claire, dollar, lune, air.
Mona... Oh, je t'ai aidé avec mon accent de merde.
Vous avez un accent génial.
Mon ami Perrault, Eau claire, dollar, lune, air, mon ami Perrault. Prête-moi ta plume, prête-moi ta plume, pour achever un mot. Ma chaîne de l'immortard, c'est une ploue de feu. Je comprends rien à ce que je dis.
Vous renoncez totalement à l'animation. Hein. Vous devenez fou, quoi, en direct.
Votre ah bah c'est génial. Génial.
Eh ben on a trouvé malgré votre oui. mauvais
eh ben
pronostic.
Voilà, vos 300 exactement. Euros là.
Voilà. Bien fait pour votre gueule,
vous
patron.
Vous nous avez défiés.
Ouais. Mesdames et messieurs, je voudrais maintenant que Chantal là-dessous essaie de nous expliquer, de nous résumer ce qu'on vient de comprendre.
Hein ? Alors, je vais vous dire un truc. En fait, c'est de la phonétique. Attendez. Au clair de la lune.
Quand il est agricole, il est en haut. Quand il est cycliste, il est en bas. De quoi s'agit-il ? Une question pour Madame Chartier d'Aigurande, dans l'Indre.
Quand il est agricole, il
c'est
est en
haut. C'est un mot commun ou deux ?
Quand il est agricole, il est en haut. Quand il est cycliste, il est en bas.
Poulidor.
N'importe mais d'où ça sort, ça?
Le Poulidor agricole.
Mais quoi, Poulidor? Expliquez-moi.
Poulidor,
vous... je ne sais pas si je vais pouvoir expliquer ma question, mais j'aimerais bien que vous m'expliquiez votre réponse.
Ça va être dur de vous expliquer ma réponse aussi. Mais je pense que Poulidor était agriculteur, non?
Ah oui, et donc quand il est en haut...
Eh bien, il est agriculteur dans les montagnes, et quand il est en bas, il court.
Ah non, c'est logique,
ah, parce que non, parce que la nuit, dans la ferme, la poule, il dort. C'est pour ça.
Oui. À quel moment de la saison on l'a perdu, en fait?
Chantal,
oui.
Fin août.
On cherche un adjectif?
Ah non, ce n'est pas un adjectif.
C'est un instrument, fatalement.
Quand il est agricole, il est en haut. Quand il est cycliste, il est en bas. Et ce n'est pas un instrument.
Mais et du coup, est-ce que le mot qu'on cherche...
Une pédale.
Qui est commun...
Pardon ?
Une pédale ?
Une pédale.
Mais non, elle est partie de...
J'aurais dit quand elle est agricole.
Ah, bien
quand,
sûr.
Parce que je ne mets pas bien toutes sûr. Les pédales au masculin.
Je ne sais pas, il faut le voir porter, Laurent. En tout cas, est-ce que ça devient une phrase rigolote quand on trouve le mot?
Comment ça?
Bah...
Sur les tutus, chapeau pointu.
Par exemple, le mot manquant est le même pour agricole et cycliste.
Bien sûr, ça c'est vrai.
Bon. Et du coup, ça fait un mot d'esprit.
Ah non, pas du tout, c'est une constatation.
C'est comme un mot...
Ah, c'est une vérité, d'accord.
Ça peut être un mot comme indice ou un truc comme ça.
Exactement. Non, c'est un constat. Et la vous constat, pourrez tous oui. vérifier, quand il est agricole, il est en
le
haut.
Le mérite.
Et quand il est cycliste, il est en bas. Le mérite.
Et donc le mérite cycliste.
Ben, y a le mérite, il peut y avoir le mérite cycliste, je ne sais pas.
Non, c'est
il
n'y
a pas le mérite cycliste.
Le dopage.
Le dopage. Le dopage agricole, il est en haut. Le dopage agricole, il est en bas.
Très en haut, le dopage agricole.
Ah, ouais. Ouais.
Le dérailleur.
Non.
C'est un objet.
Ce n'est pas un objet.
Ah. Est-ce que c'est un service?
Un service, non.
Non.
Ça peut arriver, mais normalement, c'est gratuit.
Est-ce que c'est quelque chose qu'on a chez soi? Que moi, j'ai chez moi, par
tu
exemple.
Tu peux, mais c'est
bah, parfois
c'est
vous l'avez, parfois vous l'avez pas, parfois vous l'avez, parfois vous l'avez pas.
Est-ce que ça veut dire que ça s'en vous, va et vous ça revient?
Mais ça s'en va et ça revient.
C'est fait de tout petit.
Ça se chante, ça se chante, ça se revient comme une chanson.
Vous ne l'avez ni agricole, ni cycliste, le vôtre, Caroline.
Est-ce que Karine, le marchand, peut le trouver plus facilement que nous?
Ah bah, Karine, elle l'a ni agricole, ni cycliste. Elle l'a de façon innée.
Ah. Le charme.
Le charme, non.
Bah, comme... Je te remercie, non mais je vous emmerde tous.
Mais c'est pour ça que j'ai dit ça.
Je ne suis peut-être pas belle, mais j'ai
on
du charme.
On parle pas de toi,
ça
gros,
parle
on parle de Karine.
C'est toi la vieille, on parle de Karine.
La noire voudrait bien en placer une.
Alors, on n'a toujours pas compris de quoi
si,
il s'agit
d'esthétisme.
C'est lié à l'esthétisme. Et d'ailleurs, dans un cas comme dans l'autre, ça n'est pas forcément esthétique. Il reste 30 secondes.
C'est pas un prix?
Comment
si
ça,
c'est un prix.
Le prix agricole et le prix cycliste.
Ben oui, ben
et
oui.
Pourquoi parfois il est en haut, pourquoi parfois il est en bas?
Ah, ça, j'en ai rien à foutre.
Ça n'a est-ce rien
que,
à voir.
Est-ce que c'est quelque chose qui monte et qui descend?
Comment ça, quelque chose qui monte et qui descend?
Comme par exemple le mercure dans un thermomètre.
Ah, ouais, ouais.
Ça monte et ça descend.
Ah, ouais. Et vous montez au mercure pour quel prix?
Écoutez, à partir de 500 euros, je suis très accueillante. En haut comme en bas.
Ça reste... Ça reste cher pour ce que c'est. Hein.
300 euros pour Madame Chartier qui habite Aigurande. Tant mieux pour elle. Quand il est agricole, il est en haut. Quand il est cycliste, il est en bas. Et il s'agissait du bronzage. Le bronzage cycliste ou le bronzage agricole.
Bien sûr, elle a raison.
Eh oui, le bronzage.
Bon, cycliste est le pire.
C'est le pire.
C'est la petite manchette. Donc, c'est l'avant-bras bronzé.
C'est le bras aussi,
la petite bout de cuissette.
Non,
genou.
C'est surtout les jambes.
Ah, les cuisses.
Ben, ça dépend. Oui, les cuisses,
question,
les mollets.
Alors, était quand même limite. Parce que les bras des cyclistes sont un peu bronzés quand même.
Pas s'ils ont des manches longues.
Ainsi que le visage.
Oui, mais c'est rarement. Ils ont rarement des manches longues en plein été.
C'est comme ça. Écoutez, c'était la question.
Je veux pas dire. J'ai quand même suivi le Tour de France deux saisons consécutives. J'ai rarement vu des mecs en manche longue dans le Tourmalet.
Si, quand
il fait mauvais.
Mais
t'imagines l'agriculteur qui fait du cyclisme, le bronzage de merde. Ouais. C'est un zèbre, le mec.
Ils sont souvent en chute, mais
vous reconnaîtrez quand même que les cyclistes ont plus les jambes qui bronzent.
Et les bras.
Et les bras. Oui, mais les
et le visage.
Les agriculteurs, eux, ils ont que les bras qui bronzent.
Ou le torse. Parce qu'ils ont le Marcel.
Oui, mais ils n'ont pas les jambes qui bronzent.
Si, on a en short.
Non, il n'y a pas d'agriculteur
en short. C'est moi, c'est une professionnelle qui vous le dit.
Ah non, non, l'agriculteur, il se protège toujours les jambes.
Mais non, mais non.
Si, dans le tracteur, il a les jambes protégées.
Mais vous comprenez ce que.
Oui, mais il y en a un qui bronze en haut. La question n'est pas très.
Non, la question est bizarre.
Elle est bancale, je dirais.
En tout cas, quand on m'a demandé si c'était quelque chose qui était gratuit. Oui. Par exemple, le bronzage, il est gratuit à l'extérieur et il est payant quand vous allez bronzer dans un institut. Oui, il est inné chez Karine Lemarchand, ça.
Maintenant, je comprends.
Vous ne pouvez pas dire le contraire.
Non, non, bien. Il est beaucoup moins inné chez moi, vous avez entièrement raison.
Ah oui, oui, vous, alors là, vous êtes bronzé.
Comme un cul. Il y a du blanc qui coulait partout.
Comme un cul.
Il existe le bronzage agricole, Karine, vous êtes d'accord?
Ah bah ça, c'est sûr, ils ne se protègent pas la peau, ils sont tout le temps dehors. Elle est un peu tirée par les cheveux.
Et quand vous les voyez nus, vous voyez bien qu'ils ne sont pas bronzés.
Je ne les ai jamais
vus. J'espère que quand tu les vois nus, ils se protègent.
Je ne les ai jamais vus nus.
Ah, c'est vrai?
Ah bon, bah ça vaut pas le coup alors.
Ça alors.
La personne qui m'a dit, viens voir derrière la grange, la Corinne, que je vais t'arranger un petit coup.
Non. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a quelques années, il y avait le père d'un agriculteur qui boitait un peu. Et je lui dis, il avait 82 ans. Je lui dis, oh mon pauvre monsieur, vous avez mal à la jambe. Il me dit, j'ai la jambe droite qui est raide. Puis il s'arrête et il me dit, celle de milieu aussi.
De toute façon, tu pars avec elle, tu fais pas 8 jours. Hein.
Bon, on est déjà partis ensemble, ouais. Isabelle et moi.
Ouais, ouais. Quoi, 3 jours?
Pire, 15 jours, on a jeûné ensemble.
Ouais.
Oh. Sans manger.
On a jeûné ensemble en Allemagne.
C'est pas sympa de parler d'Ogitz quand Elie Moulin.
Franchement, là, je suis choqué. Hein.
Alors, on est rentré. J'ai jamais été autant en forme de ma vie.
Ah, vraiment?
Et non, mais par contre, t'es hyper sensible. Je me souviens qu'au bout de 4 jours de jeûne, il y avait une petite fleur qui poussait dans la muraille.
T'as pleuré?
Et je, oui, parce que je faisais, mais où elle prend, où elle prend toute sa vigueur pour pousser? Elle a ses petites racines. Il fait, c'est tout sec. C'est... Alors, je l'arrosais moi. Et puis alors, j'avais un copain au téléphone et je lui dis, mais tu sais, il y a une petite plante ici, une petite fleur. Elle est trop mignonne. Elle se bat pour vivre, elle se bat. Non, il me dit, Isabelle, reviens. Le soleil se couchait, je croyais que c'était
vous
pour
moi. Vous racontez pas le mieux, mais je veux pas me vanter, mais j'ai été aussi votre Zorro là-bas.
Ah ouais. Parce que j'ai quand même fait un malaise.
Elle a quand même fait un malaise.
Bah attends, tu bouffes rien pendant 15 jours?
C'est quoi l'intérêt? Je comprends pas.
À un moment donné, je me lève le matin, je frappe à sa chambre, plus d'Isabelle Mergo, dites donc.
Oh là là.
On me dit, elle est partie cette nuit, elle a fait un malaise.
Bah oui.
Je vais à l'hôpital, je traverse les champs, parce qu'il n'y avait pas de moyen de locomotion. Je vais à pied à travers les champs jusqu'à la clinique.
Ouais, oui, il y a un truc à faire.
Heureusement, je parlais un peu allemand, vous voyez. Wo ist, il s'appelle Mergo. On me montre une chambre, et là, elle me dit, sauve-moi d'ici, sauve-moi d'ici.
Je pouvais pas rester.
J'ai arraché les perfs.
C'est vrai, vous l'avez pris sur votre dos.
Il m'a pris sur le dos et on est retourné à l'autre endroit où on jeûnait.
C'était beau.
Et
le remake de la grande vadrouille.
Voilà. Et par
c'était
contre...
la clinique Mengele.
Et par contre.
Bon, je vais te ramener à la maison.
C'est payant ou pas le...
Ah oui. Oh là là. J'ai perdu 10 kilos et 10 000 euros.
Ah ouais.
Non mais en plus, c'est quoi cette arnaque?
C'est génial, puis c'est très discret, vous arrivez là-bas, on vous dit, vous savez, c'est intime, c'est discret, personne ne saura jamais rien. Vous savez, avant vous, il y a eu Muriel Robin, Monsieur Stark.
Bah ça, c'est typique, ça.
Ça, c'est la même chose.
C'est typique.
Ah, mais tout le temps.
Quand on va dans des endroits un peu chic, tout le temps.
Ah, ouais.
Ne vous inquiétez pas, on ne vous embêtera pas. Hein. Monsieur
pire.
Carlo s'est passé la semaine dernière.
Moi j'ai été dans une clinique pour me renseigner pour les implants pour ma calvitie. Et je rentre dans le bureau, il dit c'est très discret, on vous dira rien. Il te montre le catalogue avec toutes les gens médiatiques qui sont passés.
J'ai eu ça avec un dentiste. Ça, c'est les dents de Johnny avant.
Ouais.
Voilà, c'est ça. Ah non, mais c'est terrible.
Ouais. Oui, c'est vrai, moi aussi.
Là, monsieur Junio est passé il y a 15 jours, mais enfin bon, on a tout raté. Hein.
C'est vrai, ça.
Non, mais c'est terrible pour ça, ce métier.
Ah oui,
parce que chez le dentiste, c'est pareil. Les deux dents que j'ai là, c'est les mêmes que Gérard Lanvin.
Exactement. Ici la perruque de Monsieur Lanvin.
Ah non mais c'est ça hein. Ouais. Attention, parce que je sais que vous aimez bien répondre aux questions. Vous avez deux concurrents redoutables aujourd'hui, monsieur Perroni, qui est omniscient, hein, il faut bien le dire, et mademoiselle Dombasle.
Qui est omnisciente.
Non, mais qui est chanceuse.
J'ai l'impression que c'est une rentrée d'école et je retrouve mes jolis petits camarades.
Jolis, regardez leur gueule, je peux dire.
Ça fait quoi d'être dans une classe d'ordoule, hein?
Non, mais elle a même dit à Perroni qu'il avait fait des bouclettes.
C'est ça, on dirait qu'il a mis des rouleaux, il a une coiffure de fillette.
Tu vas voir ce que je vais te mettre comme rouleau, moi, tout à l'heure.
Et vous, monsieur Plaza, les vacances ont été bonnes?
Oh, très bonnes. Très, très bonnes, très, très bonnes, en Dordogne.
Les affaires immobilières marchent toujours très bien?
Toujours bien, toujours bien, toujours bien.
Cherchez pas un appartement, Francis?
Non.
Non. Oh, merde.
Non, non.
Alors tu sors.
Francis, si, moi, je cherche un vieux garage pour un punk. Vous auriez ça?
Pardon, alors, attends, est-ce qu'on peut m'expliquer?
Attendez, attendez, un vieux garage pour un punk?
Oui, oui, j'ai un ami punk.
Qui est garagiste?
Non,
il manifeste, il est
jeté hors de chez lui, il cherche une espèce de quelque chose.
Mais pourquoi vous ne le prenez pas chez vous?
Oui, alors on va m'oublier sur ce punk qui cherche.
Mais si c'est gros, il doit être
vachement âgé si c'est un punk.
Non, non, mais il y a les punks new wave. Hein. Il faut relire vos tablettes, Perroni.
Donc Ariel, vous avez vos punks, comme certains ont leurs pauvres.
Voilà.
Mais pourquoi vous ne prenez pas chez vous votre punk?
Oui, parce que c'est un ami, mais elle ne veut pas le loger.
Elle n'aime pas marcher sur les seringues, là. ou alors c'est Bernard Henry qui a changé de coiffure et qui s'est mis des épingles à nourrice dans les narines.
Mais c'est qui ce punk?
Non, c'est un punk merveilleux, chanteur, qui est mis hors de chez lui.
C'était
un squat. Oui, mais
c'est ton ami.
Nicolas Kerr?
Exactement.
Ah, c'est lui?
Nicolas cherche un endroit, oui, pour se reloger.
Oh bah, vous pouvez quand même, pour un chanteur, vous pouvez trouver un petit appartement.
Oui, monsieur... mais enfin, il ne suffit pas d'être chanteur, il faut aussi vendre. Hein. Il a un peu d'argent ou il a quelque chose?
Non, justement. Non,
oui, alors non.
Comment voulez-vous qu'il ait de l'argent? Il a fait un disque avec Ariel.
Ça, c'était vache, alors. C'était super vache.
Elle nous avait manqué, Ariel, quand même. Il est temps de passer à une première citation, si vous voulez bien, pour Vincent Charton, qui habite à Noisin-Châtelan, c'est dans l'Isère, qui a dit « J'ai dû abandonner le masochisme parce que j'y prenais trop de plaisir. »
Jean-Yann?
Jean-Yann, non.
C'est français. Coluche.
Francis Blanche.
Jacques Martin.
Jacques Martin, bonne réponse de Laurent Baffy. Une autre citation pour Jean-Pierre Andrieux, qui habite Lens en Vercors, c'est dans l'Isère, qui a dit « J'ai une mémoire admirable, j'oublie tout. »
François Hollande.
Non.
C'est un français?
C'est joli quand même ça. Oui. J'ai une mémoire admirable, j'oublie
Aloïs
tout.
Alaïs.
Ah non, non, non.
Français?
Un français, oui.
Oui. Acteur?
Ah non, pas vivant.
Acteur?
Acteur, non, non. Il était écrivain et auteur dramatique.
Il venait aux Grosses Têtes?
Ah non, non, non. Non, mais alors c'est
académicien,
un...
alors?
Académicien français, je suis pas certain.
Roussin?
Roussin?
Roussin, non.
Pagnol?
Claudel?
Pachard?
Claudel Achard, non, mais on n'est pas si loin.
Félicien Marceau?
Giono?
Et c'était un des préférés de Philippe Bouvard.
Oui.
Alphonse Carr?
Pas Alphonse Carr.
Alphonse Allais?
Non. Alphonse Allais.
Non, non, pas
Alphonse.
Oh,
Alphonse. Jules quoi. Renard. Courtelis. Jules Renard.
Jules Renard, bonne réponse de Laurent Baffy.
Attendez, est-ce que je peux rajouter quelque chose?
Oui, bien sûr,
pour le punk. Pour le punk.
Voilà, une chose très belle de Nietzsche.
À propos de Jules Renard, voici une citation de Nietzsche.
Mais voilà, sur l'oubli, notre plus cruel et fidèle ami.
Ah, c'est pas mal aussi,
c'est
vous voyez.
Mal, oui.
Ça n'a rien à voir avec ce que je disais, mais c'est très bien.
C'est-à-dire qu'on a le droit de venir avec des citations comme ça, qu'on peut dire comme ça, qui n'ont rien à voir.
Non, vous venez avec vos petites annonces. J'ai une dernière citation avant d'autres questions plus sérieuses. Et là, j'espère évidemment que Francis Huster saura répondre à celle-ci pour Nicolas Gabreau, qui habite Sellette dans le Loir-et-Cher, qui a dit « Quand on écrit ses mémoires, on se fait deux sortes d'ennemis. Ceux dont on parle... » Et ceux dont on ne parle pas.
Et c'est pas Pierre Bénichoux qui va nous contredire.
Exactement.
Auteur dramatique, donc.
Alors, un auteur dramatique, metteur en scène surtout. Non, c'était un acteur de théâtre et un metteur en scène, mais pas un auteur dramatique.
C'était pas Barrault, c'est pas
ce
Jouvet.
Ce n'est pas Jean-Louis Barrault, ce n'est pas Louis Jouvet.
C'est pas Villard.
Ce n'est pas Villard.
C'est pas Raymond Rouleau.
C'est pas Raymond.
Ne dis pas tout ce qui ne sait pas. Il demande qui c'est.
Non, mais c'est pour Francis. Hein, c'est
Villard.
C'est
pas
ça. Il nous fait un bon duo avec Ariel. Hein.
Alors, c'est pas Rostand.
C'est pas Rostand.
Villard a surtout dit qu'après, c'est fini. C'était surtout ça.
C'est pas Streller.
Quand on écrit ses mémoires, on se fait deux sortes d'ennemis, ceux dont on parle et ceux dont on ne parle pas.
Sacha Guitry.
Sacha Guitry, non.
C'est ça pas pourrait Louis être Renard.
Mort en quelle année?
Mais il a fait partie du cartel des quatre avec Louis
Jouvet. Bah,
avec
Louis. C'est Charles Dullin.
Charles Dullin. Ah. Bonne réponse de Francis Huster. Ah ben
voilà. Ça... Non, non, je veux dire, on se retenait pour oui, pas humilier Francis.
Bien sûr. On l'avait tous sur le bout de la langue.
Charles Dullin, quand même.
Oui,
elle met jamais Dullin, Ariel.
Alors, est-ce que
parce
Charles...
que ça froisse.
Est-ce que Charles Dullin est vraiment celui qui a inventé le concept du Festival d'Avignon?
Non, pas du tout. Ouais. C'est Nietzsche.
Mais en...
Tout le monde peut répondre à la question suivante pour Caroline Dejoux, qui habite Saint-André-de-Lidon, en Charente-Maritime. Il s'appelait Georges, il était gallois d'origine, il est mort à Londres, et il était géographe, donc vous l'aurez compris, britannique. Je vous donne pas son nom de famille, parce que c'est évidemment son nom de famille qu'il faut retrouver à ce célèbre Georges, qui, en tant que géographe, partit dans les Indes britanniques, et trouva une méthode incroyable pour mesurer les montagnes. C'est lui qui a mis au point une méthode, par exemple, évidemment, dans l'Himalaya, pour mesurer la hauteur des montagnes. Comment s'appelait ce fameux Georges ?
Everest.
Bonne réponse de Stéphane Plaza. Alléluia. Alléluia.
Alléluia.
Alléluia. On voit que dès que c'est de la vraie culture, on est là. Quoi.
Comment ça vous est venu?
Bah, c'est de la culture. Vous savez, je dois apprendre quelques mots comme ça.
Eh bon, ben bah, oui, Georges Everest, il a donné effectivement son nom, il faut le dire, la montagne la plus haute, 8848 mètres. Vous saviez ça, 8848 mètres?
Bien sûr, je sais tout sur l'Everest.
L'Everest, eh bien, l'Everest tient son nom de cet explorateur géographe britannique, Georges Everest. Non, alors là, bravo.
Ça vous surprend, monsieur,
hein? Ah oui, oui.
Non, c'est ça, fusée, en
fait. Oui, bah, vous allez comme ça, bah oui, parce que sinon, ils répondent trop vite. Donc,
bah oui.
Je vais leur montrer que moi aussi, je suis là, quoi.
Tu veux qu'on grimpe le Mont Blanc tous les deux ou pas? T'as fait le marathon, on pourrait faire le Mont Blanc.
Je sais pas
deux.
Si vous l'avez grimpé, mais j'avais dû pas mal en bouffer du Mont Blanc.
Tu vas avoir du mal à te hisser là-haut, toi. Tu vas rouler comme une boule.
J'ai envie de faire un truc avec toi à deux. Allez, on fait un truc à deux.
Non.
Ouais, parce que je suis jaloux de Karine Le Marchand. Je suis jaloux parce que t'as une amitié avec Karine Le Marchand.
Oui, pourquoi
pas
t'as Valérie Mérès.
Non.
Je vais te laisser faire ça avec Valérie.
Non, mais je t'en prie.
Puis je vais me mettre en retrait, moi.
Tout le monde essaie de surfiler la petite boule. J'ai l'impression d'assister à un flipper.
Ouais, mais je suis une boule de cristal. Je suis vraiment fragile. Jackie Quartz, magnifique.
On vous aime beaucoup.
Je sais, vous m'invitez toutes les semaines. Donc j'ai bon signe, je pense.
Non, c'est parce que tu coûtes moins cher que les autres. Ça n'a rien à voir.
C'est vrai, en plus,
bah
que
oui, j'accepte. Je le sais, c'est M6, je connais la politique.
Mais attends, t'es une star de M6, Caroline, c'est une star de la musique. Laurent Dutch, c'est une star de 3-0, quand même. Putain, Tibor Kovac, l'un des plus beaux films sur le foot, quand même. C'était absolument énorme. Et t'as gagné la Ligue des Champions, t'as joué avec Ronaldinho, t'as joué au Parc des Princes, t'as joué au Stade de France, t'as joué avec Pochettino, l'un des plus grands entraîneurs du monde.
Il va te faire prendre toute ta vie, tu vois.
Mais t'es un magnifique ailier gauche, t'aurais pu être Bonté Rubio, le joueur de Nantes.
Ah bah j'étais avec lui, ouais, j'étais avec lui en centre de formation. Ouais. Ouais.
Mais pourquoi t'as dérivé? Pourquoi t'as quitté le foot pour aller dans l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie?
Pourquoi t'as loupé ta vie?
À qui a-t-on adressé cette phrase? Assez de guitare, ta lyre est cassée.
Ah, c'est...
Ulysse?
Ulysse, non.
Rolling Stone?
Non.
Mais c'est un personnage fictionnel.
Mais c'est bizarre parce que...
Pas du tout, non, c'est dans l'histoire de France, et ça s'est passé au Parlement, au Palais Bourbon.
Il va pas trouver encore.
Avant Jésus-Christ?
Non, c'est non. Sous la Troisième République, ça.
Le Palais Bourbon avant Jésus-Christ, oui.
C'est pas Georges Clemenceau?
Non. Assez de guitare, ta lyre est cassée.
Jean Jaurès,
non.
Mais c'est cette époque-là.
C'est à cette époque sous la Troisième République.
Alors on est effectivement entre deux périodes historiques. On va aller vers le Second Empire, voyez-vous.
Ah, c'est sous la Deuxième République.
Voilà.
Ouais. C'est Madame Sangène qui a dit ça à son mari.
Non, on est en 1848 à l'Assemblée. Alors, la Deuxième République.
Alors, c'est lui qui... Napoléon...
C'est avant l'élection de Napoléon III. C'est avant.
Ah, je pensais que là, quand même, cette phrase avant, célèbre. Quand même, Monsieur Ferrand, là, vous me décevez. Vous comprenez.
Oui. Ah, moi aussi, je l'adorais tellement. Je suis déçu.
Il faut savoir à qui ils le disent, c'est ça?
Exactement.
À Favre.
Mais c'est pas à Napoléon III?
À Napoléon III.
À Ledru?
Non.
Il est
Mais la réponse est dans la phrase. On est au Palais Bourbon, à l'Assemblée. Il y a là des révolutionnaires qui s'adressent donc à quelqu'un et qui lui disent « Assez de guitare, ta lyre est cassée !»
Ah, il est agressif quand même, hein.
C'est un jeu de mots sur guitare, c'est ça?
Ah, pas
sur,
du tout.
Sur lyre. Sur lyre.
Oui.
Et oui, espèce de lyre.
Quoi?
Je comprends pas en plus.
Quoi, c'est quoi, c'est
quoi l'insulte?
La lyre?
Non, mais c'est parce que son nom doit être avec la lyre, quoi.
Hein? C'est un italien?
Avec la tire-lyre?
Non.
Ah,
mais c'est quelqu'un qui jouait de la guitare?
Il n'y a pas de jeu de mots avec la lyre.
Ah non?
Non.
Et mais il jouait de la lyre au départ?
Bah, c'est un symbole, la lyre.
C'est pas Lamartine.
Ah. Et c'est Lamartine, bien sûr, Alphonse de Lamartine. Bonne réponse de Marcella Yacoub. Bah oui, quand même.
Oui.
Ben oui, quand même, c'est évident, là. Lamartine est quand même dramaturge, poète, voilà. Écrivain, et il est en plus député à ce moment-là.
Bien sûr, oui.
Eh ben oui, ben pourquoi vous me dites bien sûr que vous ne répondez pas, Ferrand? Alors.
Eh ben, t'auras beau. Stressé, vous l'avez.
T'auras beau supplier, tu reviendras pas.
Alphonse de Lamartine, évidemment.
Oui, bien sûr.
Oui. Bien sûr. Ben oui, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, alors?
Ben, pendant la révolution de 48, de février 48, Lamartine a cru que son heure était venue, donc il a pris des responsabilités exécutives, et ensuite, effectivement, il a beaucoup saoulé les députés de la Deuxième République avec ses discours. J'aurais dû penser à ça, c'est vrai.
Ben, oui, ben alors, surtout,
Moi, j'aime bien Lamartine à la campagne.
Écoutez, Valérie.
Lamartine fait la révolution.
Bien sûr. Bah, restons dans cette période, si vous le voulez bien.
Ah oui.
Ah bah oui.
On a un spécialiste, en plus.
Je vais vous demander de retrouver, oh là, si, quand même, c'est assez facile, le nom, en plus, d'un collègue à vous.
Mais arrêtez de dire c'est facile, parce qu'alors après...
Il est pervers.
C'est terrible. Bah non, ça, c'est très facile. Là.
Non, monsieur Ferrand, là, c'est un copain. Ah ouais. Enfin, pas un copain, mais un collègue à vous.
Ah.
Alors, cette... Certes, mort.
Mort depuis combien de temps?
Certes, mort depuis longtemps. Hein. Il est mort à Cannes, d'ailleurs, le 6 décembre 1882.
Ah oui, il est un sacré collègue.
Ah oui, dis donc.
Ouais, ils sont pas les soins en boîte de nuit ensemble, quand même. Hein.
Je sais qui c'est.
Allez-y.
Michelet.
Non, pas Michelet. Il est, il faut le dire, un grand historien français de l'époque, mais aussi journaliste, et fut membre du gouvernement provisoire de 1848, et donc député sous la Troisième République. On l'a même appelé le républicain de la veille, fondateur des ateliers sociaux, il s'agit de...
Ah oui, là, monsieur Ferrand, c'est facile. Hein. Si là, vous trouvez pas...
Là, on vous a donné une chance pour briller aux yeux de vos camarades.
C'était un gauchiste, c'était un homme des gauches.
Oui, plutôt, on lui doit la fameuse phrase de chacun selon ses facultés, à chacun selon ses besoins.
C'est Proudhon.
Ah oui, j'ai dit tous les jours.
Non. Il a été président de la commission du Luxembourg, il a été donc républicain de la veille, contre les républicains du lendemain.
Ah, c'est encore 300 euros, ça. Hein.
Il était né à Madrid, mais ça se...
Mais alors, il est toujours
né à Madrid. Oui, il est toujours, si vous voulez, mais enfin...
Mais il avait un nom espagnol ou un nom français?
Pas du tout, justement, c'est ça. Je pense qu'il est né à Madrid par hasard, parce que c'était le fils d'un haut fonctionnaire impérial.
À mon avis, sa mère était là-bas, quoi.
Oui, évidemment.
C'est pas Proudhon, non.
Proudhon, non.
J'ai bien des lésirs, écoute. Pardon,
Il est mort, d'ailleurs, des suites d'un refroidissement à l'âge de 71 ans.
C'est vieux, il faut dire.
Il est inhumé au Père Lachaise.
Est-ce qu'il a une œuvre écrite importante?
Il a fait une histoire de la Révolution?
Alors, je peux vous donner, si vous voulez...
S'il vous plaît, oui.
Si vraiment vous avez envie de la bibliographie, oui. Je peux effectivement vous citer ses ouvrages.
Ouais, c'est intéressant.
Avec plaisir. Le catéchisme des socialistes, 10 années de l'histoire de l'Angleterre.
C'est Louis Blanc?
Louis Blanc,
wow, ouais.
Bonne réponse!
Le catéchisme des socialistes.
De Franck Ferrand, qui se rattrape. Là, c'est bien, monsieur Ferrand.
Ah oui, oui.
Là, vous voyez, là, je suis fier.
Non, mais comme vous dites, c'est facile, ça me stresse, moi, ça me colle, hein, une pression.
Et il a une station de métro qui est pile-poil à Louis Blanc.
En tout cas, c'est une excellente réponse. Fallait quand même retrouver Louis Blanc.
Bravo.
Et il l'a fait. Qui a eu comme dernière phrase avant de mourir « Quelle étrange coutume des Français que d'exécuter les gens à l'aube ».
Oh, c'est un alors, c'était pas un Français, du coup, forcément.
Il a été exécuté.
Ah, c'est quelqu'un qui, effectivement, n'était c'est pas un, né en France.
Alors, j'ai une idée.
Mais qui est mort en France.
Ah, ça recommence.
Est-ce que c'est pas l'amant de Marie-Antoinette, le Suédois
Axel de Fersen. Oui. Mais non, il a été lynché dans la rue.
Non, mais peut-être qu'il disait ça par rapport au fait que Marie-Antoinette
était... Il a été exécuté à l'aube.
Ah oui, mais lui, il est mort bien après Marie-Antoinette.
Il a été exécuté à l'aube.
C'est quelqu'un qui a été exécuté à l'aube,
ce
oui.
Ce serait pas Matahari.
Pardon.
Matahari.
C'est Matahari. Ah ouais. Bonne réponse de Bernard Mabille.
Matahari moyen ce matin-là. Hein.
On est le 15 octobre 1917 au matin et Matahari, considérée comme une espionne, va être fusillée. Elle avait commencé comme écuyère dans un cirque.
C'est un café.
Puis danseuse. Non, pas écuyère à café. Oh là 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 là.
Ah oui, mais en même temps, Matahari, l'écuyère à cafeté.
Oh. Et donc, en tout cas, elle était danseuse nue ensuite, après avoir été écuyère. Danseuse orientale.
Oui, orientale, pas validée, nue, complètement.
Elle avait des voix.
Elle était dénudée, en tout cas.
Oui, oui. Elle n'avait pas de soutien-gorge.
Cochonne, va. Grosse cochonne.
Et pourtant, elle n'avait rien d'orientale, puisqu'elle était néerlandaise hein, d'origine.
Ah bon
ah bah, oui.
Ça n'empêche pas de faire des danses orientales.
Elle s'appelait Margaretha Gertrude Tatzel.
Ah, je savais pas.
Ah bah,
Gertrude Tatzel.
C'est moins chaud que Matahari.
Je suis hyper déçu. Oui, Margaretha Gertrude, elle va danser pour moi. Excite-moi, mon petit. Yeah.
Qu'est-ce que vous dites? Ça n'empêche pas d'être danseuse exotique, c'est ça?
Bah oui, c'est pas bah, évidemment. Enfin,
oui, enfin, c'est quand même mieux qu'une danseuse exotique soit exotique. Vous voyez
non, bah, non exemple, justement, c'est attendu.
Prenons Angela Merkel.
Ouais.
Oui.
Eh ben, quoi que la danse du ventre.
Commence pas à nous exciter tout de suite. Hein.
Ah. Le matin de son exécution, en tout cas, Matahari, et je sais qu'Isabelle, elle m'écoute parce qu'elle est intéressée par l'histoire.
Ouais, c'est la lèche.
Matahari avait un grand canotier vêtu d'une robe élégante garnie de fourrure avec un manteau jeté comme ça sur les épaules. Elle a refusé d'être attachée au poteau. On lui a donné un bandeau. Elle a refusé le bandeau sur les yeux.
Ah, mais moi, d'accord, on cède à tous ses caprices. Elle dit non, et puis voilà.
Non, mais elle était courageuse.
Elle a lancé un dernier baiser aux soldats de son peloton d'exécution.
Elle avait quel âge ?
12 zouaves hein, pour la fusiller. Hein.
Elle est morte avec 12 trous de balles.
Hein. Non.
13.
Avec 11, il y a toujours une balle à blanc.
Ah, oui. Ah, oui.
Et là, elle s'est écriée : quelle étrange coutume des Français que d'exécuter les gens à l'aube. C'est beau quand même.
Il reste quand même digne. Ah ouais,
c'est magnifique. Ah ouais.
Tu vas te faire fusiller, tu trouves le moyen de dire une si jolie phrase.
Elle l'avait répétée. Non, arrêtez.
Oui, mais là, c'est pas terrible comme
c'est
phrase.
Pas moi.
C'est quelle étrange coutume de fusiller les gens à l'aube.
Mais t'imagines,
vous auriez dit j'ai déjà un trou de balle, j'ai déjà un trou de balle.
Mais si elle avait dit non, arrêtez, jamais Laurent Ruquier n'aurait posé la question.
Ben oui, mais c'est ça qui est beau, une dernière phrase. Quand même, quand on va. Non, c'est pas pareil que quelque chose ou quelqu'un plutôt qui est assassiné au dernier moment, que vous n'avez pas pu prévoir. Elle sait qu'elle va être exécutée.
Oui, elle a préparé sa
elle
phrase.
Elle réfléchit pendant toute la nuit. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire?
Oui, elle avait que ça à faire.
Faut réfléchir, chacun devrait réfléchir. Tiens, voilà, réfléchissez chacun. Vous savez que vous allez être condamné à mort, exécuté. Voilà.
Merci, parce que j'avais vraiment la pêche en ce moment. Avec
vous nous remontez moral, là.
Ça peut arriver, imaginez, vous savez que demain, vous passez devant un peloton d'exécution.
Oui, ça peut arriver.
Ça peut arriver.
C'est rare en France.
Moi, je crie, non, c'est pas moi, c'est Caroline.
Ouais, et prévoyez plus de 12 personnes. Avec
Monsieur Mabille...
Ah, moi, je dirais pourvu que ce soit les buteurs du PSG qui tirent.
Oh, bah, vous, pour
oh, non, allez,
pour qu'ils vous ratent, il faut vraiment qu'ils.
Ils vont dire, mais dis donc, il est bien prêt aujourd'hui.
Et vous alors, monsieur Titoff?
Moi, je dirais aujourd'hui, peut-être. Ou plutôt demain.
Ah, ils chanteraient. C'est pas mal de chanter jusqu'au dernier
moment. Moi, ils tireraient encore plus vite si je chantais, moi.
Qu'est-ce que vous feriez, vous?
Je chanterais aussi. Je vais sourire à la vie, sourire à l'amour, sourire, allez, toujours sourire, malgré les soucis, malgré les ennuis.
Rire, pas mal,
toujours sourire.
Thank you.
Les mecs se mettraient à danser.
Eh ouais. Mais t'as raison, préfère. Hello, le soleil brille, brille, brille. Hello, tu reviendras bientôt là-bas. Mais oui, parce que vous rigolez, mais devant comme ça 12 hommes en uniforme.
Alors toi, tu vas te faire exécuter devant.
Eh ben j'aurais fait. Faisons l'amour avant de nous dire adieu.
Avant de nous dire adieu.
Ah oui, il y a vraiment de quoi vous buter, vous, là.
Pas le visage, pas le visage.
Ah non, moi je veux rester sublime.
À bout portant.
Je veux rester sublime sur mon lit de mort.
Et après, t'aurais chanté la chanson de Brel, au suivant.
Ça peut peut-être motiver, on sait jamais.
Parler dans l'hygiaphone.
Ou si c'est le lundi, le soleil.
Ah ou alors, carrément, non mais tu mets l'ambiance, tu fais « Tout le monde s'éclate, à la gueule le !»
Mais non, moi, alors, il vaudrait mieux chanter du Gérard Lenormand. « Soldats, ne tirez pas !»
Ah, je ne la connais pas.
Chanter la balade.
Vous connaissez pas ça? Soldat, ne tirez pas. Nanana.
Ah oui, oui,
soldat,
oui.
Soldat, ne tirez pas. Ça. Mais c'est ce que je viens de dire, oui.
Il y a ma fille qui se réveille.
Et le mec, il écoute. C'est un exploit d'avoir trouvé quand même.
Bonne réponse de Bernard Mabille. Il fait peur Kim Jong-un, hein, Isabelle Mergaud.
Il me fait peur, il a l'air fou.
Ah oui. Mais ce qui est insensé, c'est qu'il a quand même
été. C'est surtout qu'il sourit tout.
Je crois qu'il a vécu en Europe, etc. Je comprends pas ce gamin qui a grandi dans nos pays riches, modernes, etc. Retourner chez lui et faire cette horreur. C'est ça que je ne comprends pas. Au lieu d'emmener son peuple vers la voie de la raison.
Mais oui.
C'est ce que je disais toujours. Je lui disais, Adolphe, sois gentil. Les gens t'aiment bien. Tu es un bon peintre, Adolphe. Tu peins bien. Et pas moyen. Non. Ne t'énerve pas, Adolphe.
Il est venu chez nous, Kim Jong-un, vous dites.
Peut-être pas chez nous, mais je sais qu'il est.
Ah, il faudrait savoir. Ouais.
Mais non, mais dans nos pays, en Occident.
Mais non, c'est Pol Pot. Avec qui j'ai joué au ping-pong au gardien
non.
de table.
Encore joué au ping-pong avec
Mitterrand,
Pol Pot.
T'as joué contre Pol Pot.
Mais vous avez joué au tennis de table avec tout le monde, vous. Vous avez joué au ping-pong avec Pol Pot.
Écoutez, il est resté 3 ans étudiant à Paris. Et il jouait au ping-pong au quartier latin. Alors au quartier latin, il y avait un endroit où on jouait au ping-pong qui s'appelait le Ludo, rue de la Sorbonne. Et il y avait ce qu'on appelait le quartier chinois dans ce grand truc de ping-pong où était une dizaine de très bons joueurs et qui prenaient la prise porte-plume et tout ça. Et on les connaissait tous.
C'est quoi la prise porte-plume?
Oui, c'est quand tu prends la raquette comme ça. Mais c'est moi, ça me rappelle, je vous ai jamais raconté, moi, quand j'ai joué à la pétanque contre Staline.
Et après ça, je me suis dit, mais attends, alors, il y avait 30 devant lui, 30 devant eux, qui étaient deux Vietnamiens. Il y en a deux dont on ne connaît pas les noms, et on jouait souvent avec eux, moi j'étais assez bon. Et on jouait souvent avec eux, et je me dis, il y a, à mon avis, une chance sur deux.
Ah bah voilà, tout à l'heure c'était j'ai joué au ping-pong avec Pol Pot. Maintenant il y en a un qu'on connaissait pas, mais il avait les yeux bridés, c'était peut-être Pol Pot.
Et même Mitterrand, je crois que c'était Mélenchon
mais non,
en fait.
Mais non. Parce que c'est vrai que quand on dit que Pol Pot jouait au ping-pong au quartier latin alors qu'il était étudiant et que cet endroit où venaient tous les Indochinois, comme on disait à l'époque, qui étaient là, je pense qu'il en était. Pas comme tu crois.
Quelle histoire!
Il en était pongiste.
Le pire, c'est que là-bas.
Pol Pot, c'était pas un Indochinois, c'était un Cambodgien, c'était un Khmer, ça n'a rien à voir avec tout ça. Puis tu nous racontes comme Farid.
Mais non, mais c'était
tu viens de dire l'Indochinois et tout.
Tous les Indochinois.
Tu ne savais pas que c'était le Cambodge.
Le Cambodge, c'est pas l'Indochine.
Ah, le Cambodge, c'est pas l'Indochine.
Non, c'est, l'Indochine.
C'est nouveau, ça!
Ah, ouais. Elle a pas lu le bon roman.
Ce qui est plus drôle, c'est que là-bas, en Corée du Nord, il y a Kim Jong-un qui dit, vous savez, les gars, il paraît que Pol Pot a joué
au ping-pong
avec Pierre Benichou, qui a failli battre Mitterrand.
Bon, écoutez, messieurs.
Le même qui, quand même, a failli voir Boris Vian avoir une attaque dans un cinéma. Ouais. Et était
et qui a toujours été coupé dans ses films.
Leur bêtise n'a d'égal que
tu racontes le soir où vous avez volé le vélo d'Hitler. Raconte s'il te plaît, oncle Benichou.
Non, le vélo d'Hitler, c'est le
cas. C'est vrai que vous êtes un peu mytho, Pierre, quand même.
Pas du tout.
Bah si, quand même.
Ouais. Le mytho, il raconte des choses comme ça qu'il invente. Moi, je raconte des choses qui ont failli m'arriver.
C'est génial.
Allez. ma question porte sur le mouscos des rabassos, comme on l'appelle en Provence, ou la suia gigantea ou la suia fucicornis. C'est en fait une mouche, vous l'aurez compris.
Bien sûr.
Mais quelle est la particularité de cette mouche ?
Elle n'a pas d'aile.
Non.
Elle goûte, avec ses pattes ?
Comment ça, elles goûtent avec ses pattes ?
Bah, les mouches peuvent goûter avec leurs pattes. Elles ont des petits capteurs
des cuillères
sous les pattes.
Ce n'est pas ça.
C'est la mouche qui a tout le temps l'œil ouvert.
Comment ça, une mouche qui a tout le temps l'œil ouvert ?
Parce que sinon, elles ont des paupières.
Il y a quelqu'un qui disait qu'il avait découvert une mouche dont les yeux ne se fermaient jamais.
La mouche qui dort jamais.
Est-ce qu'elle pond dans un autre animal ?
Non.
Est-ce qu'elle mange qu'une journée ?
Non.
Est-ce qu'elle mange quelque chose de particulier ?
Ah ! Non. On peut pas dire ça, mais on se rapproche.
Est-ce qu'elle est liée à une autre espèce ?
Non.
Elle fait que boire ?
Non.
Elle est alcoolique. Elle se développe sur un endroit particulier ?
Ah, ça, c'est un peu vrai.
Sur les bouses ?
Sur les bouses ?
Non.
Est-ce que ça pond que dans les villes FN ?
La mouche qui dort que d'un œil.
ça,
Est-ce que ce sont des mouches d'obédience musulmane ?
Non.
Est-ce qu'il y a la mouche Ahmed ?
Est-ce que ça n'est lié qu'au sud de la France ?
Alors, c'est plutôt dans le sud de la France, c'est vrai.
Dans le nord, ce ne serait pas possible.
C'est moins possible.
Mais est-ce qu'il y en a, par exemple, au Maghreb, dans les pays chauds ?
J'en sais rien, je crois pas, non. C'est plutôt en France, en Italie.
Et c'est négatif.
Ce qu'on cherche, c'est là où elle pond, c'est tout.
Oui, d'ailleurs, on l'appelle très particulièrement d'un nom précis, cette mouche qu'en Provence, on appelle aussi mouscos des rabassos, car en effet, elle a une particularité.
Ah oui, elle pond sur les rabassos.
C'est-à-dire
oui. Bah, vous venez de le dire.
Oui. Mais c'est quoi les rabassos ?
Rabassos.
Elle pond sur les tas d'ordures qu'on ramasse après.
Non.
Elle pond dans quelque chose de vivant.
Et croyez-moi, il y a des gens qui les suivent, ces mouches-là.
Ah, c'est des mouches truffières.
Oui.
Les mouches truffières.
C'est-à-dire
Elles pondent dans les truffes. Elles sentent les truffes. Les gens les suivent pour détecter les truffes.
Bonne réponse de Laurent Baffy. Et oui. Il s'agit de la mouche à truffes. Si vous la suivez, vous pouvez trouver des truffes. Plus besoin
de...
Je
me suis fait avoir parce qu'elle ressemble étonnamment à la mouche à merde. Et je vous dis pas l'omelette, le goût de l'omelette.
Mais c'est de la truffe. Ah non, mais ça évite d'avoir un chien ou un cochon truffier.
Un cochon,
oui. Et oui, parce que ça existe,
bah, ça
les chiens
prend moins de place,
ou les cochons truffiers. Ouais, là, vous suivez les mouches et hop. Ouais. Alors évidemment, il faut que ce soit...
Elles n'ont pas un drapeau non plus.
Il faut courir vite. Non, mais il faut repérer la bonne mouche.
Il faut voir la bonne mouche. Il faut au-dessus de la truffière, il faut regarder soigneusement pour voir s'il y a une mouche qui arrive, qui tourne autour du trou, et là vous commencez à creuser.
Et tu la tiens en laisse la mouche quand ça se passe ?
Mais non, mais il faut évidemment.
Et toi, quand t'as une mouche qui tourne autour du trou, tu ramasses des truffes, Jean-Pierre ? Ou pas ?
Faut se méfier, hein, généralement.
Elles sont bonnes les truffes cette année, Jean-Pierre ?
Non, moi je ne mange pas avant le mois de janvier, ça n'est pas la saison avant janvier.
Il faut les ramasser quand
ça vous vient de dire.
Je suis allé dans un restaurant.
Peut-être bien que vous êtes allé dans un restaurant et que vous vous êtes encore une fois fait prendre pour un gogo, on ne mange pas
du tout. Ils m'ont appelé exprès pour me dire il y a de la truffe d'Alba.
Mais non, pas du tout. Alba, c'est la saison est déjà terminée.
Et voilà,
parce que la truffe, l'Alba, c'est la truffe italienne. On mange de la blanche du mois d'août à la fin du mois d'octobre ou début novembre, et on mange de la noire à partir du début du mois de janvier, quand elle est mûre, jusqu'à la fin du mois de mars. Point.
Et alors le boudin truffé, le boudin blanc truffé.
Eh bien, monsieur, c'est une escroquerie.
Ah oui, voilà. Tous les ans à Noël, moi, je me prends mon petit boudin blanc
tous
truffé.
Tous les ans à Noël, vous vous faites baiser.
C'est déjà ça.
C'est pas mal. Hein.
Parce que je préférerais le boudin noir, alors.
Il y a du boudin noir truffé, vous avec qu'à demander à votre charcutier, il va vous mettre ça.
Oh, c'est pas le charcutier qui est mis en cause dans l'histoire.
Ouais, ouais.
Vous êtes déjà allé aux truffes vous-même, Jean-Pierre, à Paris, ici, au Grand Stade, évidemment.
Oui, bien sûr.
Tu t'es mis à quatre pattes ?
Cochon truffier. Je suis allé avec un chien, deux fois.
C'est des forêts de chênes.
Chêne, quelquefois il y a du pain d'Alep, quelquefois il y a aussi des noisetiers, mais c'est vrai que maintenant on mycorhize.
Qu'est-ce que vous avez dit, Isabelle ?
Il en a bouffé du gland.
Ah oui, bien sûr. Mais
attends,
ma chérie.
Le droit, alors,
je ne m'en cache pas, toi, quand on te dit que t'as...
Ah non, mais moi, j'ai pas mâchouillé du vieux, moi. C'est complètement différent. Vous me dites
mais
que
moi non
mâchouillé.
Plus, jamais du vieux.
Mais moi,
non
jamais
plus.
Je mâchouille, monsieur.
Ah bon ?
Et puis pas de
elle
vieux.
Crachouille.
Enfin, bref. Tout ça pour dire qu'effectivement, tu as raison. Le chêne est mycorhizé maintenant et c'est avec le chêne mycorhizé que ça marche le mieux.
Mais alors, il y a des coins à truffes.
Ah, comme bien
y a
sûr.
Et bien, alors, il n'y a qu'à y aller tous les ans.
Chez Diard, chez Fauchon.
Non, on n'a pas le droit d'aller sur le terrain d'un autre pour chercher des truffes.
Qu'on n'a pas le droit. Ils balisent tout.
Ah, il y a des voleurs de truffes.
Ah, non, mais il y a des. Maintenant, n'oubliez pas que maintenant, il y a un gangstérisme absolument incroyable autour de la truffe.
Oh, tiens, c'est les djihadistes de la truffe.
Moi j'ai vu des mouches barbues. Hein.
Je vais vous lire quelques vers d'un chant. Un chant consacré à Jeanne d'Arc qui dit « J'aimerais mieux le soir pour mon usage, une beauté douce comme un mouton. Mais Jeanne d'Arc eut un cœur de lion. Vous le verrez si vous lisez cet ouvrage. Vous tremblerez de ses exploits nouveaux. Et le plus grand de ses rares travaux fut de garder à un an son pucelage. »
C'est un écrivain du 19e ?
Du 19e, non.
18e ?
Du 18e, oui.
Écrivain ou auteur?
Écrivain.
Auteur de théâtre?
Et c'est vrai que, par exemple, ce texte écrit par cet écrivain a longtemps été interdit, car on n'avait pas le droit, évidemment. Le texte fut censuré, on n'avait pas le droit de s'en prendre ainsi à Jeanne d'Arc.
Voltaire.
Ouais. Bonne réponse de Gérard Jugnot et Chantal là-dessous. Chantal, vous feriez une magnifique Jeanne d'Arc. Là,
c'est vrai.
Ah oui, je vous vois sur le bûcher.
Sur le bûcher, oui.
Ah oui. Ouais, mais sans les lumières.
Mais tu y es depuis longtemps, non?
En plus, il n'y a pas beaucoup de textes à part aïe.
Ça brûle.
C'est chaud.
Attends, c'est bon quand c'est haut. Imaginons la scène, hein, n'est-ce pas, oui. Chantal? Admettez, je suis un directeur de casting, ou Gérard Jugnot. Il aime bien s'attaquer parfois à des récits historiques. Il l'a fait avec Bayard, par exemple. Ouais. Et il pourrait le faire tout autant avec Jeanne d'Arc.
Je peux faire
alors,
les cochons.
Je suis sur le bûcher.
Alors vous êtes sur le bûcher.
Attaché. Hein.
Attaché.
Voilà. Les seins nus.
Non. Pourquoi les seins nus?
Bah quand j'ai les bras en l'air, ils sont très droits. Ah ben j'espère que tu t'es épilé sous les bras, c'est plus joli quand même. Ah oui. Les seins nus, c'est très bien. Moi, je passe mon été comme ça. Ouh.
Quand vous brûlez au soleil.
Oui.
Bon, alors, si vous voulez les bras en l'air, moi ça me gêne pas. Les seins nus, si vous voulez aussi. Mais là, il faut trouver du texte maintenant.
Allez. Oh, c'est chaud. Tu veux que je garde mes lunettes?
Avec les barbecues Weber.
Ça sent le cochon grillé. Tu peux descendre les bras? Oh, attends, je remets mon soutien-gorge.
Moi, j'ai joué Jeanne d'Arc, mais au boucher. Il m'en reste à bout, je vous le mets quand même.
Ah, les deux phrases, évidemment, qu'on préfère, qui seraient, hein, selon la légende, les dernières phrases de Jeanne d'Arc. Oui. Il y en a une, c'est Jean-Yann qui nous l'a rapportée, c'est... Pourvu qu'il pleuve.
Il manquerait plus qu'il pleuve.
Et puis il y a celle de Rufus aussi. Vous m'avez pas cru, vous m'aurez cuite. Oui.
Il y a aussi les braises sont prêtes, amenez les chipolatas. Oh.
On n'a pas le droit de toucher à une sainte, je vous le rappelle.
Ça ne doit pas être agréable hein, de se faire cramer. Quand
à vous
Non, elle avait une camisole en soufre. Donc tu meurs étouffé là-bas.
Moi, je crois pas que t'étouffes. T'es à l'air libre, au contraire. Non.
Non, mais ce qu'il y a, c'est que le chauffage au plancher fait gonfler les jambes.
Une question pour Julie Denier de Wittelsheim dans le Haut-Rhin.
Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a à droite?
Comment ça c'est?
Oui, je sais pas, il est d'humeur à commenter chaque mot que vous sortira de votre bouche.
J'ai l'impression de regarder une vidéo YouTube, il y a des commentaires sur tout.
Alors là, vous avez voulu pas de commentaires? Vous allez voir la définition du mutisme.
Ça durera pas longtemps. Non,
tiens, ça durera ce que ça durera. Bois un coup, Pierrot.
Ah, l'ambiance va tomber. Hein.
Elle est gentille, la grosse, mais elle est jalouse.
Allez, quand il est en forme, il est en forme.
Oui.
Bon, monsieur Pierre, vous allez pouvoir répondre à cette question.
Je veux voir.
Polybe et Mérope, le roi et la reine de Corinthe, ont adopté quelqu'un. Quel est le nom du fils qu'ont adopté Polybe et Mérope, le roi et la reine de Corinthe?
Raisin.
Mais non.
C'est pas toi qui aurais trouvé ça, Pierre. Hein. T'as vu ce qu'elle te dit, la grosse? Elle est quand même plus rapide. Hein.
Et bim.
Oh, le combat de coq. Hercule.
Hercule, non.
C'est Ulysse.
Ulysse, non.
Est-ce qu'il a un prénom aussi à la con que ses parents adoptifs?
Ah non, Polybe et Mérope, le roi et la reine de Corinthe.
Mérope, non. C'est pas Mérope.
Non, Mérope peu.
Mérope.
Mérope peu. Polybe et Mérope peu, le roi et la reine de Corinthe.
Ah, Polybe, c'est du colon.
Pardon.
Du colon, ça peut être Polybe.
Mais non, il y a des polypes partout.
Ah, on voit qu'il a réussi ses analyses.
Ah, ouais, ouais. Oh, le mec a fait une coloscopie hier, il est fou de joie.
Polybe.
Ne confond pas.
Est-ce que c'est un héros de la mythologie?
Ah oui, on peut dire ça, oui, effectivement, oui.
Pénélope.
Pénélope, mais, non, un fils.
C'est
Pénélope.
Un fils.
Si vous avez un fils, vous l'appelez Pénélope.
Moi, j'en ai un qui s'appelle oui, comme ça.
Oui, parce qu'il a...
C'est un garçon qui s'appelle Bernadette. Eh ben oui, alors...
Et alors, on respecte la différence.
Bah oui.
Polybe et Mérope, le roi et la reine de Corinthe, ont eu un fils adoptif, hein, adoptif, attention, très célèbre. De qui s'agit-il ?
Jason ?
Jason, mais non.
Mais il accomplit des actes héroïques.
Ah, héroïque, c'est pas tout à fait le mot, non. Mais
il a fait.
En tout cas, il a laissé.
Son nom est resté dans l'histoire.
Oh là là, madame.
Il est beau mec ? Si c'est Apollon ?
Apollon, non.
Il a un rapport avec la guerre de Troie ?
Du tout.
Du tout.
Adonis. Il n'aura pas lieu, de toute façon.
Il a une statue à lui.
Thésée ?
Taisez-vous, oui.
Ok, je fais comme Pierre, je rentre dans le mutisme.
Est-ce que c'est un dieu ou un demi-dieu ?
On va quand même pas donner 300 euros à Julie Denier.
Si, parce que vous avez dit avant que c'était évident qu'on allait trouver.
Oh bah oui, parce que vraiment, je pensais que c'était très simple.
Mais c'est quoi son truc, la beauté, le...
Leur fils adoptif, attention, hein, j'ai bien dit adoptif.
Oui, mais enfin, déjà qu'on connaît pas leur vrai
mais
fils.
Mais il n'avait pas leur nom.
Comment ça ?
Adoptif, il s'appelait autrement.
Hein ? Tu nous fais perdre du temps et tu nous mets pas dans la bonne voie.
Alors.
Le seul adoptif que je connais, c'est Moïse, moi.
Ce n'est pas Moïse. C'est Polybe et Mérope, le roi et la reine de Corinthe, ont élevé, alors je vais pas dire son nom, hein, comme leur fils, comme leur propre fils, alors que ce n'est pas leur fils.
Aîné.
Aîné, non.
Car.
Non, c'est leur fils.
Car. Il vous reste 30 secondes.
Judas.
Judas, non.
Il est allé vers le soleil.
Comment Iris. Ça
il est allé vers le soleil début juillet toujours.
C'est pas Pygmalion. Pygmalion.
Pygmalion, non.
Pygmalion.
Non.
Jean-François Copé.
Chantal, je pensais quand même que vous connaissiez un peu la mythologie.
Mais oui, mais je cherche, je vais trouver.
Ah ben c'est trop tard. 300 euros pour Julie Denier. Polybe et Mérope, le roi et la reine de Corinthe, l'ont élevé comme leur fils. Voilà pourquoi il ignorait que Laios et Jocaste étaient ses vrais parents. Voilà pourquoi il tua Laios et il coucha avec Jocaste, sa mère. Et il s'agit donc...
Édipe.
Édipe, ah, évidemment. Oui. Édipe, c'était quand même très facile.
Jocaste, c'est la mère à Édipe. Hein.
Bah oui, la vraie mère.
Mais je savais pas qu'il avait couché avec
il s'était gratté.
Je ne savais pas.
C'est le père qui a dit ça.
300 euros pour Oedipe. Franchement, je pensais pas les distribuer ainsi. Et oui, il ignorait évidemment qu'il s'agissait de son père Laios quand il tue Laios. Et plus tard, quand il couche avec Jocaste,
il ne sait pas
que c'est sa mère. C'est même l'inverse. Il s'éloigne de Polybe et Mérope, ses parents adoptifs, parce que on l'a prévenu qu'il y avait un danger à ce qu'il tue son père et qu'il couche avec sa mère. Voilà pourquoi il s'éloigne de Polybe et Mérope, mais ce ne sont pas ses vrais parents, Polybe et Mérope.
Et comment ça se fait que Jocaste et son père l'aient abandonné et qu'ils se soient retrouvés adoptés par les autres ?
Parce qu'eux aussi, ils connaissaient la prédiction, évidemment.
Jocaste était un peu cougar, quand même.
C'est terrible parce que tu ne peux jamais savoir. L'autre jour, je vais avec une dame dans un hôtel. Et en partant, elle me dit « Reste un peu, fiston ». J'ai dit « Quoi ?» Encore ? Parce
que si elle t'a un peu fiston, elle a mérité son pourboire. Hein.
Là, pour la relever, il a fallu un treuil. Hein. Oh, vache. Il a couché avec un fantôme.
Reste un peu, fiston.
Faut quand même rappeler que Dip et sa maman, Jocaste, ont eu 4 enfants ensemble.
Bien sûr. Eh ben. C'est des conneries qui sont abruties. Ils sont tout à fait normaux.
Ils ont eu 2 fils.
C'est un truc avec ta mère, avec ta sœur et tout. C'est la plus grande supercherie au monde de dire que les enfants consanguins ont une chance de devenir abrutis. On a une chance que les enfants soient mal formés, débiles, tu vois.
T'appelles ça une chance.
C'est quand c'est 8e génération, au 8e croisement. C'est pourquoi on disait les fins de race. C'est parce que dans une race, c'est-à-dire dans une famille, dans une descendance, s'il y a quatre ou cinq fois le cousin, tiens, ben, c'est ta cousine, machin, cousin, là, c'est ton frère, oh, je savais pas. Si c'est sept fois, le huitième, mais si tu couches une fois avec ta maman, sérieusement. Une maman. Mais tu vas pas dire à ta maman, prends la pilule, donne-la.
Ah, je sens, mais là, je sens que vous êtes heureuse d'abord d'être la seule fille dans l'émission aujourd'hui.
Ah putain, j'avais même pas vu.
Si, c'est la seule
femme. C'est bien foutu quand même, je me suis fait baiser. Persuadé que c'était un mec.
Bah non, regardez, elle a du rouge à lèvres.
Ben oui.
Bon, et alors
y a les gens en boulain,
et Stevie ça. Aussi. Hein. Oh non.
Oui, Stevie, mais pas sur les lèvres.
Oh.
Non mais Mella,
non, mais elle est belle Mella.
Ah, vous trouvez qu'elle est belle?
Oui, elle a un beau visage. Mella.
C'est vraiment une phrase qu'on dit aux personnes, excuse-moi, mais comme nous un peu rondes, elle a un beau visage, ça veut dire quoi?
Ben, je trouve que elle a un très beau visage, un peu moins toi, elle oui.
Et donc elle peut Et elle a pas un beau cul. Moi, je trouve qu'elle a un très beau cul. Voilà, je te le dis.
Moi, je regarde pas voilà. Les femmes.
Alors, excusez-moi, est-ce que je peux partir?
Pas tout de suite, on a un truc à faire avant.
Je suis sûr, en plus, que vous êtes contente et impressionnée d'être à côté de Stevie. Vous avez dû regarder, vous êtes de la génération à avoir regardé
Love. Bah oui, Love Terror, number one, Love Terror.
Oh là là, non.
Bah, tu voulais que je te sorte quoi? T'as pas eu le prix Goncourt?
Oui, c'est ça. C'est sûr, mais alors cette chanson.
Bah, j'aimais bien, moi.
Ah non, moi, j'en peux plus, cette chanson. Bon. Non, on me l'a sorti. Pendant tous les jours.
Et c'était votre préféré, Stevie, dans non. Le loft?
Non, c'était qui? Laure, toi?
Non.
Non?
Attends. Non, j'aimais bien Loana, elle avait des problèmes, un enfant illégitime, j'aimais bien, moi, ça. Ça me touchait.
Ah oui?
T'as dû voter Mitterrand, toi.
Monsieur Artus, vous connaissiez Mella Bedia?
On s'est croisés déjà, je
oui,
crois.
On s'est croisés. Ouais,
bah, évidemment, trois dans le couloir, j'imagine.
On s'est croisés au buffet.
Au buffet. Et, On va faire que des vannes sur les gros. T'as plein. Ouais. Et on va s'asseoir sur vous. Non, je... Vengeance.
Bon, attention, aujourd'hui, un peu de culture dans cette émission, histoire quand même de, bah, d'envoyer des chèques à nos auditeurs.
Mais oui,
je demande. Je compte sur vous, Longérias. Hein. Bah oui, c'est pas Baffi qui pense qu'à...
Non.
Quoi, d'ailleurs? On se demande.
Manœuvre, il pense
qu'à... Attendez, finissez vos phrases, Laurent.
Ben,
je pense
Laurent,
à quoi, exactement?
Manœuvre, il pense...
Non. Je pense à quoi?
Il pense à son cachet, voilà.
Non, c'est pas vrai. Parce que j'aime beaucoup cette émission.
C'est vrai.
Et je vous apprécie beaucoup, malgré l'odeur.
Et vous, Manœuvre, vous pensez qu'à votre livre, évidemment?
Non, pas du tout.
Non, c'est vrai.
Tout ce qu'on a entendu, c'est que t'avais vu la bite de Paul Naref.
Ah, ça vous a fait ça.
Ça a tourné en boucle tout le week-end.
Le Paul Naref.
Mais tout le week-end.
Et la chatte de Nana Mouskoué.
Elle est comment, la bite de Paul Naref, alors?
Mais où est-ce que vous avez entendu ça? Bah, parce que c'est pas dans mon émission que je l'ai raconté, ça, je ne me serais pas permis. Non.
Ah, c'était des extraits qui passaient, les bonnes pages de son livre.
D'ailleurs, il paraît que la bite de Paul Naref n'est qu'un extrait.
Et pourtant, il y a longtemps qu'il n'a pas sorti un 30 cm.
Et ben ouais, rassurez-vous, il va sortir son 30 cm fin novembre.
Ah
tout
oui
le monde pourra le voir, tout le monde pourra l'écouter.
Ils sont plus sur les affiches.
Et oui, maintenant.
À un moment donné, il disait je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux. Visiblement, t'avais l'oiseau.
Et pourquoi vous avez vu le sexe de Paul Naref?
Parce qu'il souvent il mixe tout nu dans son studio. Il est pas, c'est un artiste, voyez-vous.
Oui, naturiste.
Un artiste et il a pas du tout les mêmes barrières que nous. Donc,
c'est un cuisinier qui mixait tout nu. C'est quoi, c'est une couille?
C'est fou cette manie. Dès qu'on est artiste, on peut tout faire.
Oui,
il était là pour foncer des guitares.
Voilà,
dans
c'est
un artiste.
C'est absolument, absolument.
Une citation pour Jean-Jacques Gouban qui habite Faye-sur-Ardin. C'est dans les deux. Sèvres, qui a dit « Si Dieu était élu au suffrage universel ces temps-ci, je suis pas sûr qu'il repasserait. »
Coluche ?
Non.
C'est un homme ?
C'est un homme.
Français ?
Un Français vivant.
Mort, un vivant.
Politique ?
Politique. Il s'est occupé de beaucoup de politique dans ce qu'il faisait. Mais
François Hollande.
François Hollande, non.
Non, pas de politique, François Hollande.
Il a fait partie des grosses têtes.
Ah non, non, mais il aurait pu à une époque, sauf que... Ah, encore que, il était plutôt copain avec Philippe Bouvard, étonnamment.
C'est un journaliste.
Non, un journaliste, non.
Philippe Bouvard.
Philippe Bouvard, mais non.
Un humoriste, alors.
Un humoriste, oui.
Il a Légion d'honneur.
Oh, sûrement.
Sûrement.
Ah, McDan. Roland McDan.
Mais non.
Oh, le rapport.
Quel rapport avec l'humour?
Il n'y a pas une info de bonne. Il n'y a pas une info de bonne.
Quoi? Quel rapport avec quoi?
À chaque fois, vous sortez le nom de Roland McDan.
Parce que c'est le seul vieux un peu pas drôle. Oh, je rigole. Non, mais...
C'est... Donc, Guy Bedos, non?
Qui a dit Guy Bedos? Et c'est Laurent Baffy qui donne la bonne réponse. C'est bien Guy Bedos, évidemment. Une citation pour Johanna Carta, qui habite la Ciotat, qui a dit « Notre père qui êtes aux cieux, restez-y ».
Coluche ?
Non.
Gernac ? Jacques Prévert.
Jacques Prévert. Excellente réponse d'Éric Logérien. Une question culturelle pour Madame Hélène Foucault qui habite Rougier. Quel riche paysan échangea sa fortune contre un titre de noblesse avec Monsieur et Madame de Sottenville?
C'est dans un roman?
Ben oui.
Un roman, non.
Dans la réalité?
Dans la réalité, non plus.
Dans un opéra?
Un opéra, non. Quel riche...
Dans une peinture?
Non.
Dans un film?
Non. Quel riche paysan échangea sa fortune contre un titre de noblesse avec Monsieur et Madame de Sottenville?
Et une fable?
Une fable, non.
C'est une pièce de théâtre, non plus?
Une pièce de théâtre, oui, Monsieur Bénichou.
Ah, ah bah, je vais vous dire ce que c'est. Georges Dandin.
Excellente réponse de Pierre Bénichou.
C'est la pièce la moins connue de Molière.
Exactement, Georges Dandin ou Le mari confondu, une des pièces de Molière peut-être les moins connues, c'est vrai. Mais je sais que votre ami Claude Brasseur l'a joué.
C'est pour ça que je l'ai vu cette fois. Mais c'est une très jolie pièce. Et il y a la fameuse formule, quand il dit qu'il est tellement malheureux, que c'est affreux, pourquoi ses beaux-parents le méprisent, pourquoi sa femme le quitte et tout ça. Et il y a une voix qui lui dit « Tu l'as voulu, Georges Dandin ».
Ah oui.
Voilà, je vous dis ça uniquement si vous avez, si vous avez marre des histoires de couilles et de machin. Vous pouvez rentrer à la maison le front haut.
Une des dernières phrases de Georges Dandin, le personnage dans la pièce de Molière, c'est « Lorsqu'on a comme moi épousé une méchante femme, le meilleur parti que l'on puisse prendre est de s'aller jeter dans l'eau la tête la première.
Oh. » Mon Dieu, que votre esprit est d'un étage bas. Que vous jouez au monde un petit personnage, de vous claquemurer aux choses du ménage, et de n'entrevoir plein de plaisirs plus touchants qu'un idole d'époux et des marmots d'enfants. Laissez aux gens grossiers, aux personnes vulgaires, les bas amusements de ces sortes d'affaires, à de plus hauts plaisirs, enfin bon, songez à prendre, bon, etc.
Mettre un corbeau sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Mettre un renard par l'odeur alléchée.
Voilà. Oh, combien de marins, combien de capitaines sont partis joyeux pour des courses lointaines et jamais n'ont ramené la monnaie.
Viens, dit-elle en ouvrant les rideaux. Les voilà.
Dites-moi, Laurent Ruquier, n'est-ce pas bientôt l'heure de la publicité?
Non, je ne crois pas
qu'il en fût encore temps. Car de Carrefour Market, nous n'avons pas encore entendu le son.
Oh, c'est joli.
Mais comment vais-je faire? Comment vais-je faire pour attendre encore 5 minutes avant d'avoir... La véranda! La véranda! La reine des vérandas! Non mais, c'est incroyable, on a l'impression que les gens passent leur vie à acheter des vérandas. Alors, mais c'est incroyable,
pourquoi?
Comment... Bah, parce que la véranda, publicité que fait notre excellent confrère.
Stéphane la véranda Berne. Fait au moins rimer ça avec Bermuda.
Attendez, je ne comprends pas, il y a des pubs sur RTL pour la véranda.
Stéphane Bern vend des vérandas à longueur de journée.
Comme si c'était la reine qui arrivait, la reine des vérandas.
Et puis, la reine est là. La reine, mais quelle reine? La reine des vérandas.
Et d'un autre côté, il y a Julien Courbet qui vend des fenêtres aussi.
On est dans le bâtiment à RTL.
On est dans le bâtiment, mais on touche pas beaucoup de briques. Hein. Merci, monsieur Dan.
Et la question est tout simplement le nom d'un militaire mort justement à Milan, en Lombardie, à l'âge de 91 ans. Quel célèbre militaire est mort en Lombardie, à Milan précisément, à l'âge de 91 ans?
Mais il y a longtemps?
Ah oui, pas hier, oui.
Il était italien ou français?
Alors non, il n'était ni français ni italien, mais tous les gens cultivés connaissent son nom.
Chaguet. C'était la Renaissance?
Oui. Ah non, il est mort, je vais vous dire très exactement, en 1858 à Milan.
Il a donné son nom à autre chose que...
Exact.
Voilà, donc genre...
Mais il n'a pas un nom à consonance italienne?
Non, plutôt autrichienne, c'est vrai.
Jean-Michel Blitzkrieg ?
Non.
Jean-Louis Bayer ?
Ouais. Bon, non. Jérôme Putsch ?
Non.
Beckenbauer ? Allez, le temps.
On cherche un maréchal autrichien.
Maréchal autrichien.
Mort à Milan. Célèbre, parce que c'est vrai que quelqu'un s'est servi de son nom. Enfin, quelqu'un lui a rendu hommage, en quelque
sorte. Münchhausen ?
Non. Peut-être si vous trouviez le nom de celui qui lui a rendu hommage, ça pourrait vous aider. On est en Autriche. Bon, alors.
Alors en Autriche, il y a qui
Hitler.
C'est Mozart.
Pas Mozart.
Beethoven.
Pas Beethoven.
Un musicien donc.
Un musicien.
Lully.
Lully. Lully, non.
Bach.
Bach non plus.
Radetzky.
Radetzky. Oh. Bonne réponse de Marc Lambron. Voyez quand vous voulez.
Ah oui. Eh ben oui.
Expliquez.
J'avais remis mon sonotone. La marche de Radetzky, qui est un morceau de Strauss, si je ne me
trompe. Exact, la marche de Radetzky. Voilà. On avait déjà posé une question, mais dans l'autre sens, d'ailleurs, à propos de cette marche de Radetzky, signée Johann Strauss, Joseph Radetzky est bien mort en Lombardie à l'âge de 91 ans. Tout le monde connaît la marche de Radetzky. Excellente réponse, monsieur Lambron.
Ah, merci. Je vous réveille.
Jean-Marie.
Qu'est-ce qu'on a emballé là-dessus, hein.
Ouais. Peut-être pas quand même, mais tiens, profitez-en pour nous donner une histoire, Jean-Marie.
C'est comment un mec, il va chez la femme de son meilleur ami. Elle le reçoit, c'est l'après-midi. C'est les cigales, ça.
Ah, voilà.
Tu vois, il fait chaud.
C'est le sud, voilà.
Elle a un petit chemisier un petit peu transparent. Putain, on voit un petit peu ses seins à travers. Là, il est complètement fou. Et il l'adore, évidemment. Il sort de sa poche 5 billets de 100 euros. Et lui dit, voilà, il dit, tu sais, je sais, t'es la femme de mon meilleur ami, mais pour 500 euros, est-ce que tu me montres un sein? Mais l'autre, les cigales et tout, 500 balles quand même, elle lui montre un sein. Et elle a pas fini de lui montrer, l'autre, elle a les yeux qui sont à moitié retournés, et lui, il ressort 500 euros, et il dit, allez, 500 de plus, tu me montres les deux. Bon, elle a déjà craqué une première fois, elle dit, ok, hop, elle lui montre les deux, et là, il enchaîne, le mec, il se dit, putain, j'ai un pied dans la porte, là, j'y vais. 1000 euros, je te donne 1000 euros, et tu me laisses te tripoter les seins. Franchement, 10 secondes, pas plus, tu vois. Réfléchis, bon, on est quand même à 2000 euros, hein, ça fait presque deux paires de Louboutins quand même, non, je sais pas, j'essaye de penser comme une femme.
C'est Rachida Dati qui vous la racontait.
Et elle dit, ok, se jette sur ses seins, tripote les seins et tout, et là, il remet la main dans sa poche, il dit 1000 euros de plus, allez. Tu me laisses te baiser. Il n'y en aura pas pour long. Hein. Je suis déjà chaud. Comme la braise et tout. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle dit, ok. L'autre, effectivement, 3 minutes, il est déjà reparti. Tu vois.
Ah, c'est mardi très gras. Hein.
Et donc, elle a empoché donc 3000 balles. Tout le monde a bien compté. Et le mari de cette femme, il rentre le soir à la maison. Et puis, il dit à sa femme, il dit, moi, Roger, il est passé cet après-midi te voir. L'autre, c'est chaud, hein. Et elle décide de nier. Elle dit non, 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 pas du tout, pas de Roger. Et là, le mari, il dit, vous voyez, bah, il dit, toi, ça m'ennuie parce que j'avais demandé de te rapporter les 3000 euros que j'y ai prêté la semaine dernière.
Ah, si elle est bien. Quels sont les 7 péchés capitaux?
Ah,
la luxure.
La convoitise.
La luxure, la gourmandise.
Alors, la luxure, la gourmandise, je prends.
L'avarice. La convoitise.
Vous avez dit
l'avarice.
L'avarice, oui.
La paresse.
La paresse, oui.
Vous ne voulez pas de la convoitise?
Elle n'y est pas.
La gourmandise.
Et il y a aussi la concupiscence.
Non.
Non, je l'ai dit.
Vous m'avez dit l'avarice, vous m'avez dit la luxure, vous m'avez dit la gourmandise, et la paresse, ça en fait 4.
L'adultère?
Il y en a 3 encore.
La concupiscence?
La concupiscence, non.
Gourmandise.
La gourmandise, on l'a dit, c'est
la bon. Jalousie?
La jalousie, non. C'est un peu la jalousie, mais c'est pas la jalousie.
Ouais, ouais, ouais. L'envie,
très bien.
Non, le blasphème?
Non, il y en a 2 encore.
Le crime?
Le parjure?
Non.
Est-ce que ça a rapport avec tromper sa femme, un truc comme
non,
ça?
Non, non.
Le parjure?
Non.
Le tripotage?
Non.
Le désir de la femme de son voisin? Mais en plus raccourci?
Non, ça c'est l'envie.
Ah, j'en ai un, l'orgueil.
Ça en fait un de plus.
La vanité?
Il nous en manque un, alors.
La vanité,
c'est on venait de l'avoir, d'ailleurs, le septième péché capital.
Le mensonge?
Non. En même temps que l'orgueil, on avait le septième péché capital.
La vanité?
Non.
Est-ce que je l'ai, ce péché?
Ah oui, oui, ça. Bah, vous venez de l'avoir. Vous les avez tous.
La mauvaise foi. La malhonnêteté.
La mauvaise foi. L'avarice. T'es gonflé parce que l'avarice. Ouais, bah, parle pour toi. L'avarice, je ne l'ai pas.
Ah, si vous avez l'avarice, vous avez.
Non, non, maintenant, ça suffit. Toi, t'as des varices.
Il y a Gérard qui demande si c'est la laideur.
La vulgarité.
La bêtise.
Attends.
Le manque d'hygiène.
La saleté.
Les racines noires. La cruauté. La colère, l'entêtement.
La colère. Bonne réponse de Christine Bravo.
Oui. Ah oui. Parce que je me demandais ce que j'avais au moment où j'avais gueulé.
Mais je suis quand même très déçu qu'il y ait que ce... enfin, c'est quand même très,
ah, mais la
bizarre.
Colère, c'est beaucoup plus grave que de tuer, dis donc.
Bah oui,
la colère, l'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie, la gourmandise et la paresse. Allez, chacun doit nous dire lequel de ces sept péchés capitaux, évidemment, il a peut-être...
Moi, c'est évident. Ben, on dit gourmandise, quand même.
Vous, c'est la gourmandise, Ariel.
Ben oui, mais je trouve pas que c'est...
Ça,
non, mais
c'est la gourmandise. C'est un péché mignon.
C'est un petit péché, je trouve.
Vous, c'est la paresse, Christine.
La paresse,
Christine.
Ouais, évidemment, la paresse.
La paresse.
Oh non, mais toi, c'est... je te jure, Christine, que Laurent a raison. L'avarice, la paresse, gourmandise,
oui.
L'envie, mais t'es toujours envieux.
Ah oui, ça, c'est vrai. Oui,
ah
oui,
les a tous.
L'orgueil aussi.
La luxure, t'aimerais bien, mais bon, tu peux pas. La colère, oui. Et l'orgueil, mais enfin, je suis désolée, mais à part la luxure, t'as tout.
Et vous, monsieur Boubi, alors?
Moi, ouais, je dirais l'orgueil.
L'orgueil, ah bah oui, l'orgueil.
Parce que si je dis la luxure, ça fait un peu trop footballeur.
Ben oui, oui, comme blessure, vous voulez dire. Oui. Et vous, alors, à part la gourmandise, Ariel? Parce que la gourmandise, c'est trop facile, ça, tout le monde
oui,
est gourmand.
Oui, c'est vrai. Hein. Alors, je dirais peut-être...
La luxure, un peu, peut-être. Hein.
Non. Oui, peut-être la luxure.
Ah,
mais non,
oui.
Mais non, la luxure, c'est vraiment dégueulasse. Hein.
Tu crois?
Ah, mais je...
C'est malsain, elle connaît. Non,
mais... Et vous, alors, Isabelle?
Oui, mais elle
n'est
pas luxure.
Ah, moi, c'est sûr que c'est la colère.
Ah, la colère. Ah oui, c'est la colère.
J'ai certainement pas l'avarice, ça se saurait, j'aurais plus de fric. Ouais, la paresse, ça. Non, je suis pas... La
alors attends, je vais te la refaire moi aussi. Pour
l'envie, là. Non. La luxure, alors... L'orgueil.
L'orgueil, ah oui, peut-être un petit peu l'orgueil. L'orgueil, oui.
Non, mais l'orgueil est un vrai péché.
Ah oui.
Ah, mais bien sûr.
Comment vous définissez l'orgueil?
Eh bien, je...
Par rapport à ton mari.
Non, mais je crois que la vanité... Ah oui. N'est pas grave, parce que ça, c'est une chose légère, les gens qui... Voilà. Mais l'orgueil, c'est quelque chose d'infiniment pernicieux. Ça veut dire...
Eh ben, c'est pas mal, c'est de la dignité.
Ouais, mais ça sert dans la vie, l'orgueil, quand même.
Il faut s'entendre sur le mot. Qu'est-ce que vous entendez derrière le mot orgueil?
Oui, c'est la raison.
Bah, l'orgueil, c'est la façon de... Enfin, voilà, de répondre.
La fierté,
l'estime,
ouais,
voilà, bah, c'est un peu
l'estime
de soi.
Avoir
c'est une
pas
très
la même
haute image
c'est
de soi.
Pareil. C'est pas pareil, l'orgueil et la fierté. Voilà, exactement.
Ouais, mais il y a un sens. Quand on est abaissé au plus bas niveau et qu'on vous dit que vous êtes une merde, à un moment donné, il faut savoir se relever.
Filo, là,
non, mais c'est vrai, c'est l'étymologie expliquée par les footballeurs.
Enfance,
ben non, mais enfin, je sais pas.
Il y a combien
non,
pour les
non, ça rien
il y a 4
voir.
Heures
Attention, coefficient 4.
Non, l'orgueil, parce que ça peut mener à la pire des tyrannies. Voilà, c'est un truc de fascisme, l'orgueil.
C'est la tyrannie.
C'est pas la fierté et c'est pas la vanité. Ça, c'est de la connerie.
Déjà, Laurent, c'est la paresse. Il ne branle rien.
C'est l'avarice. Jamais il nous paye un truc.
Il a pas de péché capital, mon mimi. Hein,
ah, bah non.
Non. Un peu coléreux.
Ah non.
Non, non, non. Oh, bah dis donc, avec moi, tu fais chier, t'es tout le
oui,
temps en colère.
Oui, mais enfin, c'est toi. Hein. Toi, t'as tous les péchés capitaux, il est normal.
C'est toi qui mets en colère tout le monde.
Non, peut-être un peu l'orgueil, quand même.
Il n'est pas orgueilleux.
Ah non, non, non.
Il est fier, il est.
Oui, oui.
Mais il
est
pour
pas
moi,
pas
pardon,
orgueilleux.
Il est con comme une pine, voilà. Mais c'est pas sur la liste, alors.
Et ben voilà, on y arrive. Qu'est-ce qui est noir au stade fœtal, entièrement noir, mais qui ne le reste pas?
Un tétard?
Non.
Un animal?
C'est une bête?
Oui.
C'est un insecte?
C'est une question zoologique pour Laurent Baffy, qui n'est pas
qui était censé être là, c'est ça?
Est-ce qu'en naissant, il a deux couleurs?
Alors non, en essence,
il est tout noir, mais ben ça pourrait être une orque.
Ce serait pas le cygne ?
Le cygne, non. Quel animal est entièrement noir au stade fœtal, mais ne le reste pas ?
Mammifère,
oui.
Fœtal, c'est dans le ventre.
Oui, dans le fœtus.
Donc dès qu'il sort, il change de couleur dès qu'il sort.
Petit à petit.
Petit à petit. Oui, le cheval blanc.
Mais non. C'est-à-dire ?
D'Henri IV.
D'Henri IV, oui, c'est ça.
Il naît noir... Et il devient blanc.
C'est pas le kangourou ?
Le kangourou, non.
Non, c'est un marsupial.
Un marsupial, non.
Mais non, mais un marsupial, c'est pas un mammifère.
Un mammifère, il peut-être pas avec son bec.
Ah non, mais déjà, je connais pas les catégories d'animaux.
Alors, est-ce que c'est un animal qui saute ?
Oh, qui saute de temps en temps quand il est heureux.
Oui. Un mammifère il saute de joie. Qu'on a en France ?
Il y en a en France, dans les parcs, mais pas,
ah oui, c'est ça.
Pas en liberté.
Un panda ?
Un panda, non.
Est-ce que c'est un animal dangereux ?
Un zèbre ?
Un zèbre ! Bonne réponse de Christine, bravo.
Là, on voit qu'elle a réfléchi.
Mais oui.
Et oui, on croit qu'un zèbre a des rayures noires sur sa pelure, sur son poil blanc, mais c'est l'inverse.
C'est quand il est en prison qu'il est...
Et pas en prison, on le voit pas.
C'est-à-dire qu'en fait, il a des rayures blanches.
Voilà, c'est ça.
Ah non, ça revient. Ah non, ça revient pas au même. Ah non, ça revient pas au même. Il est noir au départ et ensuite il devient. Il a des rayures blanches.
Il a des cheveux blancs, mais
et non pas l'inverse. Moi, j'ai toujours été persuadé qu'un zèbre c'était blanc avec des rayures noires.
Mais vous savez pourquoi on pensait ça ? Parce que souvent, ils ont la crinière blanche. Alors on se dit, du coup, il devait être blanc d'abord et après on a passé au rouleau.
Là, c'est parce que vous avez rencontré un vieux zèbre.
Et heureusement, c'est un zèbre, il sort l'écurie et tous les chevaux sont là et ils se marrent, les chevaux. Il dit, mais pourquoi vous riez ? Il t'a pas enlevé ton pyjama pour ça.
Oh non, mais écoutez,
franchement, je la trouve mignonne.
Lui-même a honte.
Pierre, j'avais commencé à écrire ta blague parce que ma fille me dit, je t'en supplie maman, note tout ce que dit Bénichou tellement c'est drôle. Donc j'ai commencé Zeb, j'ai arrêté là. Tu vois.
Alors moi je vais vous dire une chose. Vous savez que je fais du name dropping très souvent. Eh bien, Marguerite Duras.
Elle adorait cette histoire.
Elle l'adorait et elle me disait chaque fois que je la voyais. Tu me re-racontes l'histoire du zèbre. Alors, je disais, mais tu la connais. Il sort, et alors? Et les mecs, les chevaux se marrent. Et alors? Il a gardé son pyjama. Et elle le riait pendant une heure. Et c'était pourtant pas une conne, hein.
C'est vous dire. Le général de Gaulle aussi adorait cette histoire.
Mais moi qu'Hitler.
Pierre, écoutez, excusez-nous de ne pas être Marguerite Duras, mais effectivement, ça nous fait moins rire, parce que d'abord, on l'a souvent entendu, vous voyez, cette histoire, elle a ce qu'on appelle...
Mais vous n'avez qu'à pas venir à toutes mes émissions.
Ce sont des raies blanches sur un corps noir, et non pas des raies noires sur un corps blanc.
Ça vient vraiment même, hein, mais bon...
Non, ça vient pas au même.
Bah non, parce
qu'il n'est pas peint.
Attends,
enfin...
mais Christine va t'expliquer, voilà.
Ça revient pas
ça,
du tout
au
même.
Tableau, tu as un tableau noir, c'est des rayures blanches.
Un tableau blanc, c'est des rayures blanches qui apparaissent. Ça revient pas du tout au même. Ça veut dire qu'il est blanc et qu'il a des rayures noires qui apparaissent.
En plus, c'est plus compliqué. Le problème, c'est que quand il y a du soleil, il met des Ray-Ban.
Il y a des zèbres albinos. J'ai une photo de zèbre albinos.
C'est un cheval blanc, alors.
Alors, c'est gris. Non. Là, les rayures sont grises. Oh. Alors, rendez compte, c'est fou, ça, quand même.
Moi, j'ai pas de chance.
Il y en a qui sont en damier aussi.
Ou plutôt, d'ailleurs, non, les rayures sont pas grises. Le corps noir est devenu gris et les rayures, elles, sont toujours blanches. Vous comprenez ce que je veux dire?
D'accord.
Ah, il faut être précis maintenant.
Il est gris et blanc.
Il a les yeux rouges, alors.
Ah ben oui, évidemment, puisqu'il est albinos.
Albinos, c'est toujours les yeux.
Mais c'est l'animal le plus con de la création. Quand
le zèbre.
Mais écoute, dans la savane, tu vois que lui. Non. C'est-à-dire que à gnou, tu peux le confondre avec une touffe.
Avec
le gnou est couleur touffe. Mais dans la savane.
Oui, oui.
Tout ce que je sais, c'est que j'ai pas envie d'être à gnou pour voir votre touffe. Oh non, écoutez, franchement.
Écoute, t'es dans le car, tu regardes, tu scrutes la savane. Tout ce que tu vois, c'est les trois contes zèbres et les girafes.
Mais non, ils courent et en fait, ils sèment la panique aux yeux des lions parce qu'il y en a beaucoup et ils savent plus où ils sont.
Et ça fait du cross-crossing.
Voilà, exactement.
Oui, mais enfin, on les voit.
Oui, mais non.
Quoi, non, on les voit pas?
Oui, on les voit, mais
pourquoi on a habillé les tolards comme ça pour qu'on les voit?
C'est comme un miracle. Oui. Et puis les lions, ils les embêtent pas. Ils disent, tiens, il est en pyjama.
Oui.